Sarah Chive et Catherine Evans dans leur souffrance devant l'Inquisition. Ce qui suit est un extrait modernisé de l'histoire de l'essor, de l'accroissement et du progrès du peuple chrétien appelé Quakers, entremêlé de plusieurs événements remarquables. Par William Sewell, rédigé originalement en bas néerlandais et traduit par lui-même en anglais. Le texte entre crochets a été ajouté par l'éditeur du site Voici l'histoire remarquable de deux femmes Quakers d'un courage incroyable, arrêtées par l'Inquisition catholique romaine. Elles subirent ensuite 4 années d'emprisonnement brutal, soumises à une pression constante pour devenir catholiques, puis menacées d'être brûlées vives et écartelées pour avoir refusé d'accepter l'idolâtrie de la secte romaine. Leur témoignage montre non seulement la dépravation de la secte romaine, mais aussi le soutien du Seigneur envers ces femmes courageuses, dans des conditions où presque tous les hommes auraient péri. Leur foi inébranlable atteste la vérité de la revendication des premiers Quakers d'être animés du même esprit que les apôtres, et confirme l'évangile qu'ils prêchaient, l'évangile du ministère de l'Esprit de vie, qui délivre les gens de leurs péchés et greffe la vie de Dieu dans le cœur des auditeurs obéissants, les amenant ainsi à la communion avec le Christ et le Père. Leur force dépassait celle des mortels, fournie par la puissance toute-puissante de Dieu, leurs persécutions furent la tribulation qui les rapprocha davantage de Dieu. Leur récit ci-dessous est un témoignage de la protection des saints par Dieu et une inspiration pour toutes les générations à venir. Sewell est considéré comme l'historien de référence du premier mouvement Quaker, étant la source de la plupart des écrits Quakers au XIe siècle. Sewell était lui-même un Quaker néerlandais, fils de parents Quakers, qui se trouvait en Angleterre durant une partie des persécutions qu'il a relatées. Sewell décrit ce qui suit comme un récit clair et circonstancié de l'emprisonnement de Catherine Evans et Sarah Chivers, principalement recueilli à partir de lettres et de papiers écrits par elles en prison et envoyés alors en Angleterre, où ils furent publiés imprimés peu de temps après leur retour, en l'année 1662. Il poursuit, en l'année 1658, ces femmes, ayant dans l'esprit le dessein de voyager vers Alexandrie, en Égypte, partirent d'Angleterre sur un navire à destination de Livourne, en Italie, et après avoir passé 31 jours entre Plymouth et Livourne, elles débarquèrent enfin en sûreté dans cette ville. Elles y trouvèrent quelques-uns de leurs compatriotes et amis et y restèrent plusieurs jours, distribuant de nombreux livres Quakers lorsque l'occasion se présentait. Elles s'entretenaient aussi avec des personnes de divers rangs, sans être inquiétées par personne. Elles obtinrent ensuite une place sur un navire hollandais en partance pour Alexandrie, ou Skanderun, une ville la plus méridionale de Turquie, jouxtant la frontière syrienne. Mais le capitaine du navire, étant en compagnie d'un autre bâtiment allant à Malte, s'y rendit aussi bien qu'il n'y eût rien à y faire. Mais avant d'y arriver, Catherine tomba dans une telle angoisse d'esprit qu'elle s'écria. Nous avons une coupe terrible à boire en cet endroit. Il étant entré dans le port et se tenant sur le pont du navire, regardant les gens qui se tenaient sur les remparts, elle dit dans son cœur, « Allez-vous nous détruire ? Si nous nous abandonnons au Seigneur, il est alors suffisant pour nous délivrer de vos mains, mais si nous désobéissons à notre Dieu, tout ceci ne pourrait nous délivrer de sa main. » Et ainsi toute crainte des hommes leur fut ôtée. Le lendemain, qui était le premier jour de la semaine, elles allèrent à terre, où le consul anglais les rencontra et leur demanda ce qui les amenait. Elles répondirent comme elles le jugèrent convenable et lui donnèrent quelques livres. Il leur dit alors qu'il y avait une inquisition, et les invitant aimablement chez lui, il dit que tout ce qu'ils possédaient était à leur service pendant leur séjour. Elles acceptèrent cette invitation et s'y rendirent, et beaucoup vinrent les voir. Elles les appelèrent à la repentance, de sorte que plusieurs en furent attendris. Vers la nuit, elles retournèrent à bord. Le lendemain, elles revinrent en ville et, allant vers le gouverneur, celui-ci leur dit qu'il avait une sœur au couvent qui désirait les voir. Elles se rendirent alors au couvent, parlèrent avec les religieuses et leur donnèrent des livres, et l'un de leurs prêtres, qui les conduisit à la chapelle, leur demanda de s'incliner devant le grand autel, mais elles refusèrent, attristées par l'idolâtrie qui s'y commettait, puis retournèrent chez le consul, où elles restèrent quelques semaines. Durant ce temps, elles entrèrent une fois dans un des lieux de culte pendant l'office, et Catherine, se tenant au milieu du peuple, tourna le dos au grand autel, et s'agenouillant, éleva sa voix en prière au Seigneur. Le prêtre, qui officiait, ôta son surplis et s'agenouilla près d'elle jusqu'à ce qu'elle eût fini. Puis il tendit la main vers elle pour qu'elle vienne à lui et lui offrit un signe, mais Catherine, le prenant pour la marque de la bête, refusa. Il mit alors la pièce dans la main de Sarah, mais elle la lui rendit et lui montra sa bourse, qu'elle avait pour donner si quelqu'un était dans le besoin, et qu'elle n'était pas encore dans le besoin. Il demanda ensuite si elles étaient calvinistes ou luthériennes. Elle répondant non, il demanda si elles iraient à Rome auprès du pape. Elle le niant, il demanda si elles étaient catholiques, elles dirent qu'elles étaient de vrais chrétiens, serviteurs du Dieu vivant. Mais comme elles n'avaient encore appris que peu de la langue parlée en ce lieu, elles s'exprimèrent très imparfaitement. Ce qu'elles firent se fit en partie par des mots et en partie par des signes, du mieux qu'elles purent, et beaucoup de ceux qui les entouraient en furent étonnés. Toutefois, enfin, elles se retirèrent paisiblement. Quelque temps après, elles allèrent de nouveau dans une maison de messe, où l'on administrait le sacrement, comme ils l'appellent. Il y avait beaucoup de lumière, une grande magnificence et des ornements, et attristées par leur idolâtrie, elles demeurèrent environ 3/4 d'heure, pleurant et tremblant, surtout Catherine. Cela frappa l'assemblée d'un tel étonnement que certains s'éloignèrent d'elle par crainte. Enfin elles sortirent toutes deux, mais dans un tremblement tel qu'elles avancèrent dans la rue en chancelant, si bien qu'elles furent un sujet d'étonnement pour tous ceux qui les virent. Elles furent environ 3 mois chez le consul anglais, et lui, pour cette raison, étant sous soupçon, ne fit pas ce qu'il aurait pu faire pour les sauver, mais en quelque manière il les livra à l'Inquisition, bien que son serment l'obligeât à protéger les Anglais qui s'y trouvaient. Entre-temps, il les garda dans sa maison et ne leur permit pas de sortir, bien que le gouverneur lui eût dit qu'il pouvait les laisser vaquer à leurs affaires, car, dit-il, ce sont d'honnêtes femmes. Le consul aurait aussi pu les laisser partir libres, avant qu'elles ne tombent sous le pouvoir de la verge noire. Le serviteur de l'inquisiteur portait une verge noire. Or elles, s'apercevant que quelque chose se tramait à leur détriment, et comptant déjà qu'une prison serait leur lot, lui signifièrent qu'elles le soupçonnaient, et lui dirent que Pilate rendrait service aux Juifs, tout en se lavant les mains dans l'innocence. Lui, embarrassé, leur demanda un signe, pour savoir si elles étaient les messagères de Dieu. Elles lui firent comprendre que ceci pourrait servir de signe, que tout irait bien pour elles, mais que cela ne se terminerait pas bien pour lui. Par la suite, il arriva qu'elles furent mandées par l'Inquisition. Ce même jour, la femme du consul leur apporta des vivres, mais, tandis qu'elle passait, Catherine fut frappée au cœur comme d'une flèche, et il lui sembla entendre une voix disant « Elle a obtenu son but ». Alors Catherine ne voulut pas goûter la nourriture, mais se retira à l'écart et pleura abondamment. Le consul l'ayant appelée, lui dit que l'Inquisition les avait fait demander, ayant reçu des lettres de Rome, mais qu'il espérait qu'on les relâcherait, ce qui pourtant n'était pas vrai, car ils savaient, comme elles le comprirent plus tard, qu'une chambre leur était préparée dans la prison de l'Inquisition. Et il ne fallut pas longtemps avant que vinssent le chancelier, le consul et un homme à la verge noire, qui les conduisirent devant le seigneur inquisiteur, et il leur demanda si elles avaient changé d'avis, car il semble que cela leur avait été exigé auparavant. Elles répondirent non, et qu'elles ne changeraient pas au sujet de la vérité. Alors il demanda quelle nouvelle lumière elles évoquaient. Elles répondirent que ce n'était pas une nouvelle lumière, mais la même dont les prophètes et les apôtres avaient rendu témoignage. Ensuite il demanda comment il se faisait que cette lumière se fût perdue depuis les temps primitifs. Elles répliquèrent « Elle ne s'est pas perdue, les hommes l'ont encore en eux, mais ils ne la connaissent pas, parce que la nuit de l'apostasie a recouvert les nations. » Alors il dit « Si vous voulez changer d'avis et faire comme nous le voulons, dites-le, sinon nous vous traiterons comme bon nous semblera. » Mais elles, signifiant qu'elles ne changeraient pas, dirent « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Il se leva alors et s'en alla avec le consul, les laissant là, et l'homme à la verge noire et le gardien les prirent et les mirent dans une chambre intérieure de l'Inquisition, qui n'avait que 2 petits trous pour la lumière et l'air. Cet endroit était d'une chaleur excessive, comme si leur intention avait été de les étouffer, comme on le verra par la suite. Peu après, on les amena devant les inquisiteurs pour un examen plus approfondi, et ils leur demandèrent non seulement leur nom, mais aussi les noms de leur mari et de leurs parents, quels enfants elles avaient, et aussi pourquoi elles étaient venues là. Elles répondirent qu'elles étaient servantes du Dieu vivant, venues là pour les appeler à la repentance. Le lendemain, on les appela de nouveau, mais on les interrogea séparément. Et Sarah, à qui l'on demanda si elle était une vraie catholique, dit qu'elle était une vraie chrétienne, adorant Dieu en esprit et en vérité. Alors on lui présenta un crucifix et on voulut qu'elle jurât qu'elle dirait la vérité. Elle dit qu'elle dirait la vérité, mais qu'elle ne jurait pas, car le Christ avait commandé « ne jurez aucunement ». Le consul anglais, qui était présent, s'efforça de la persuader de jurer et dit que personne ne lui ferait de mal. Comme elle avait quelques livres avec elle, on les lui prit, et on lui demanda pourquoi elle apportait ses livres. Elle répondit « parce qu'elle ne pouvait pas parler leur langue ». Puis on lui demanda ce qu'était George Fox. Elle répondit « un ministre ». On lui demanda encore pourquoi elle était venue là, et elle répliqua « faire la volonté de Dieu, comme le Seigneur m'y a poussé ». La question suivante fut « comment le Seigneur lui était apparu ?» Elle répondit « par son esprit ». Et, interrogée pour savoir si elle voyait sa présence et entendait sa voix, elle répondit qu'elle entendait sa voix et voyait sa présence. On lui demanda alors ce qu'il lui avait dit. Elle répondit qu'il lui avait demandé de traverser les mers pour faire sa volonté. Cela les amena à demander comment elle savait que c'était le Seigneur qui le lui demandait. Elle répondit que, puisqu'il lui avait signifié que sa présence vivante l'accompagnerait, elle trouvait qu'il accomplissait sa promesse, car elle sentait sa présence vivante. Après cela, ils s'en allèrent. 2 jours après, les inquisiteurs vinrent appeler Catharine, et, lui présentant le crucifix, lui dirent que les magistrats lui commandaient de jurer qu'elle dirait la vérité. Elle répondit qu'elle dirait la vérité, car elle était témoin pour Dieu, mais qu'elle ne jurait pas, puisque plus grand que les magistrats avaient dit, « Ne jurez aucunement, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, car tout ce qu'on y ajoute vient du mal. » Alors ils dirent, « Vous devez obéir à la justice, et elle vous ordonne de jurer. » Elle répliqua, « J'obéirai à la justice, mais si je jurais, je ferais une chose injuste, car le juste le Christ a dit, « Ne jurez aucunement. » Puis ils lui demandèrent si elle reconnaissait ce Christ qui était mort à Jérusalem. Elle répondit, « Nous reconnaissons le même Christ et nul autre, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ensuite ils lui demandèrent ce qu'elle irait faire à Jérusalem. Elle répondit qu'elle ne savait pas qu'elle dût s'y rendre, mais qu'elle avait eu l'intention d'aller à Alexandrie. Ils demandèrent, « Pour y faire quoi ?» Elle répondit, « La volonté de Dieu. » Et dit-elle, « Si le Seigneur ouvrait ma bouche, j'appellerai les gens à la repentance, je leur annoncerai le jour du Seigneur et je détournerai leur esprit des ténèbres vers la lumière. » Ils lui demandèrent aussi si elle voyait le Seigneur. Elle répondit que Dieu est esprit et qu'on le discerne spirituellement. Or, bien que d'après les réponses de ces femmes, on ne pût guère obtenir de quoi les blâmer, elles furent néanmoins gardées comme prisonnières étroitement, ce qui sembla affliger le consul anglais, car il vint à elle les larmes aux yeux et dit qu'il en était désolé comme de sa propre chair, car il semble qu'il avait reçu quelque chose pour les avoir livrées, qu'il aurait volontiers rendu s'il avait pu par là obtenir leur liberté, mais une peur servile le dominait, et il n'eut jamais de paix tant qu'il vécut. Quelques jours après, vint un magistrat, 2 frères, l'homme à la verge noire, un scribe et le geôlier de l'Inquisition pour les examiner, et on leur demanda encore de jurer, mais elles répondirent comme auparavant que le Christ a dit, « Ne jurez aucunement », et que l'apôtre Jacques avait donné le même commandement. Sur ce, le magistrat demanda si elles diraient la vérité, elles dirent « oui ». Il demanda alors si elles croyaient au credo, elles répondirent qu'elles croyaient en Dieu et en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, ayant souffert à Jérusalem sous Ponce Pilate, ressuscité des morts le 3e jour, monté vers son Père, et qui viendra au jugement pour juger les vivants et les morts. Il demanda encore comment elles croyaient à la résurrection, elles répondirent qu'elles croyaient que les justes et les injustes ressusciteraient selon les Écritures. Ensuite il dit, « Croyez-vous aux saints et les priez-vous ? » Elles répondirent, « Nous croyons à la communion des saints, mais nous ne les prions pas, nous prions Dieu seul, au nom de Jésus. » Sa question suivante fut de savoir si elles croyaient en l'Église catholique. Elles répondirent qu'elles croyaient à la vraie Église du Christ, mais le mot catholique, dirent-elles, nous ne l'avons pas lu dans l'Écriture. Il demanda aussi si elles croyaient au purgatoire, elles dirent, non, mais à un ciel et à un enfer. Alors l'un des frères, qui était un Anglais, dit qu'on nous commandait de prier pour les morts, car ceux qui sont au ciel n'en ont pas besoin, et pour ceux qui sont en enfer il n'y a pas de rédemption, il doit donc y avoir un purgatoire. Puis il demanda si elles croyaient au Saint-Sacrement, elles répondirent qu'elles n'avaient jamais lu le mot sacrement dans l'Écriture. Le frère répliqua, « Là où vous lisez dans vos Bibles sanctification, c'est sacrement dans les nôtres. » Et il dit que leur Saint-Sacrement était le pain et le vin, qu'ils convertissaient en la chair et au sang du Christ par la vertu du Christ. Alors, dirent les femmes, vous faites des miracles, car la vertu du Christ est la même qu'au temps où il changea l'eau en vin aux noces de Cana. Le frère dit, si nous ne mangeons pas la chair et ne buvons pas le sang du Fils de Dieu, nous n'avons pas la vie en nous. Elles répondirent, la chair et le sang du Christ sont spirituels, et nous nous en nourrissons chaque jour, car ce qui est engendré de Dieu en nous ne peut pas plus vivre sans nourriture spirituelle que nos corps temporels sans nourriture temporelle. Alors il dit, vous n'entendez jamais la messe. Mais nous, dirent-elles, nous entendons la voix du Christ, lui seul a les paroles de la vie éternelle, et cela nous suffit. Il dit, vous êtes des hérétiques et des païens, elles répliquèrent, sont hérétiques ceux qui vivent dans le péché et la méchanceté, et sont païens ceux qui ne connaissent pas Dieu. On leur demanda alors qui était le chef de leur église, elles dirent, le Christ. On demanda encore ce qu'était George Fox, elles dirent, c'est un ministre du Christ. Et lorsqu'on demanda s'il les avait envoyés, elles répondirent, non, c'est le Seigneur qui nous a poussés à venir. Alors le frère dit, « Vous êtes trompés et n'avez pas la foi, quand bien même vous auriez toutes les vertus. » Elles répondirent, « La foi est le fondement d'où procèdent les vertus. » Sur ce, on leur dit que si elles prenaient le Saint-Sacrement, elles pourraient recouvrer leur liberté, sinon le pape ne les relâcherait pas pour des millions en or, et elles perdraient leur âme et leur corps aussi. Elles répondirent, « Le Seigneur a pourvu à nos âmes, et nos corps sont librement livrés pour le servir. » On leur demanda ensuite si elles ne croyaient pas que le mariage fût un sacrement, elles répondirent que c'était une ordonnance de Dieu. On leur demanda encore si elles croyaient que les hommes puissent pardonner les péchés. Elles répondirent que nul ne pouvait pardonner les péchés sinon Dieu seul. Après quelques autres propos échangés, les femmes demandèrent « En quoi vous avons-nous fait du tort, pour que nous soyons tenues prisonnières tous les jours de notre vie? Notre sang innocent sera redemandé de vos mains. » Le frère dit qu'il prendrait leur sang sur lui. Elles répondirent que le temps viendrait où il trouverait qu'il en avait assez sur lui sans cela. Puis on leur dit que le pape était le vicaire du Christ et que ce qu'il faisait était pour le bien de leurs âmes. Elles répondirent « Le Seigneur n'a pas confié la charge de nos âmes au pape, ni à vous non plus, car il les a prises en sa propre possession, gloire à son nom pour toujours. » Puis on leur dit qu'elles devaient obéir. Elles répondirent qu'elles obéissaient au gouvernement de l'Esprit ou de la lumière du Christ. Le frère dit « Nul n'a la vraie lumière, sinon les catholiques, la lumière que vous avez est l'esprit du diable. Malheur, dirent-elles, à celui qui maudit Jésus, le diable peut-il donner le pouvoir sur le péché et l'iniquité? Il détruirait son propre royaume. Vous, répliqua le frère, tout le monde vous tourne en ridicule et se moque de vous. Mais dirent-elles, que deviendraient les moqueurs? Cela n'a pas d'importance, dit-il, vous courez ça et là pour prêcher et vous n'avez pas la vraie foi. Elles répondirent, la vraie foi se garde dans une conscience pure, sans offense envers Dieu et envers les hommes. Chacun a la vraie foi, celui qui croit en Dieu et en Jésus-Christ qu'il a envoyé, mais ceux qui disent qu'ils croient et ne gardent pas ses commandements sont des menteurs, et la vérité n'est pas en eux. Le frère confessa que cela était vrai, bien qu'il leur fût continuellement très importun par des menaces pour les faire se tourner. Et à cette fin, elles furent enfermées dans une chambre d'une chaleur si excessive qu'on disait qu'il leur était impossible d'y vivre longtemps. Elles étaient aussi si cruellement piquées par les moustiques, lorsqu'elles étaient couchées, que leurs visages enflèrent comme si elles avaient eu la petite vérole, de sorte que beaucoup commencèrent à avoir peur d'elles, et le frère dit à Sarah qu'il voyait un mauvais esprit sur son visage. Une autre fois, lorsqu'elles furent examinées, on leur demanda combien de leurs amis étaient partis dans le ministère et vers quelle région. Elles répondirent à cette question selon ce qu'elles savaient, et on leur dit que tous ceux qui venaient là où le pape avait quelque chose à dire ne repartiraient jamais. Mais elles dirent que le Seigneur leur suffisait autant qu'il suffit aux enfants dans la fournaise ardente, et que leur confiance était en Dieu. Catherine, étant souffrante, on lui demanda pourquoi elle avait cet air, si son esprit était faible. Elle répondit « Non, mon corps est faible, parce que je ne mange pas de viande. » Le frère, l'entendant, lui offrit une permission de manger de la chair, car c'était leur carême. Mais elle refusa et dit qu'elle ne pouvait rien manger du tout. Et se mettant ensuite au lit, elle y demeura nuit et jour pendant 12 jours d'affilée, jeûnant et suant, car elle était dans une grande affliction et son agonie était grande. Après qu'elle eut été alitée 10 jours, deux frères vinrent auprès d'elle, avec le chancelier, l'homme à la verge noire, un médecin et le gardien. L'un des frères commanda à Sarah de sortir de la chambre, puis tira la main de Catherine hors du lit et dit « Le diable est-il si grand en toi que tu ne puisses parler ?» Elle répondit « Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, la puissance du Seigneur est sur moi, et tu l'appelles un diable. » Sur ce, il prit son crucifix pour la frapper à la bouche, et elle lui demanda si c'était cette croix-là qui avait crucifié Paul au monde et le monde à lui. Ce moine ignorant dit que oui, mais elle le nia et dit « Le Seigneur m'a fait témoin pour lui, contre tous les ouvriers d'iniquité. » Il lui dit alors d'être obéissante et voulut la frapper, elle dit « Va-tu me frapper ?» Et lui disant qu'il le ferait, elle ajouta « Tu es hors de la doctrine des apôtres car il ne frappait point, je te nie comme étant de ceux qui alertent au nom du Seigneur. » Il dit alors qu'il lui avait amené un médecin par charité, elle répondit « Le Seigneur est mon médecin et ma santé salvatrice. » Le moine, s'emportant, dit qu'elle serait fouettée, écartelée astérisque et brûlée cette nuit-là à Malte, ainsi que sa compagne. Mais elle lui dit modestement qu'elle n'avait pas peur, le Seigneur était de leur côté, et ils n'avaient aucun pouvoir sinon celui qu'il avait reçu, et s'il ne l'employait pas à la même fin pour laquelle le Seigneur le lui avait donné, le Seigneur le jugerait. À ces paroles, ils furent tous frappés de stupeur et s'en allèrent. Puis le frère alla vers Sarah et lui dit que Catherine l'avait traité d'ouvrier d'iniquité. « L'a-t-elle fait ? » dit Sarah. « Es-tu sans péché ? » Il répondit qu'il l'était. « Alors, répliqua Sarah, elle t'a fait tort, mais bien sûr qu'il ne l'était pas. On ne peut pas persécuter des gens qui ne partagent pas votre opinion et être sans péché. » Ce moine était soit un menteur et honté, soit il n'avait aucune notion de ce qu'est le péché. Astérisque être écartelé, c'est avoir les bras et les jambes tranchés. Le prêtre menace les femmes d'être écartelées, attachées à un poteau, puis brûlées vives. Tard dans la soirée, quelque chose fut proclamé à la porte de la prison, au son d'un tambour, et de bon matin, certains revinrent avec un tambour et des armes à feu. Il me semble que cela fut fait exprès pour effrayer ces pauvres femmes et leur faire croire qu'on les mettrait à mort, car en effet elles n'attendaient guère autre chose, ayant pendant plusieurs semaines pensé qu'on les mènerait au bûcher, mais elles étaient pleinement résignées et abandonnées à ce que le Seigneur voudrait bien permettre. Pendant ce temps, Catherine demeura malade, le frère revint avec le médecin, mais elle lui dit qu'elle ne pouvait rien prendre à moins de s'en sentir libre. Il dit alors qu'elle ne sortirait jamais de cette chambre tant qu'elle vivrait, et feignant d'être bon envers elle, il ajouta « Vous pouvez remercier Dieu et moi que ce ne soit pas pire, car cela aurait pu être pire. » Sur ce, elles dirent que, si elles étaient mortes, elles seraient mortes aussi innocentes que jamais aucun serviteur du Seigneur. Il dit alors que c'était bien qu'elles fussent innocentes, puis, se tournant vers Sarah, il lui dit de remarquer quel tourment Catherine subirait à l'heure de la mort, disant que des milliers de diables emporteraient son âme en enfer. Mais Sarah lui dit qu'elle ne craignait rien de tel. Il demanda ensuite à Catherine si elle ne pensait pas qu'il fût opportun que les anciens de l'Église prient sur les malades. Elle répondit « Oui, ce que l'Esprit du Seigneur y pousse ». Alors il se jeta à genoux et se mit à hurler, appelant sur lui des malédictions amères s'il n'avait pas la vraie foi. Le médecin, pendant ce temps, était furieux parce qu'elle ne s'inclinait pas devant lui. Or, tandis que Catherine était malade, Sarah n'était pas sans grande affliction, car il lui était douloureux de voir sa chère compagne si mal, et elle prévoyait aisément que si Catherine mourait, ses propres souffrances seraient plus lourdes. Pourtant, elle s'abandonnait à la volonté du Seigneur et ne s'opposait en rien au repos éternel de Catherine. Mais avec le temps, Catherine commença à aller mieux et à avoir faim, et en mangeant, elle fut ragaillardie. Mais la chambre où elle était enfermée était d'une chaleur si excessive qu'elle était souvent amenée à se lever de leur lit et à se coucher contre la fente de la porte pour avoir de l'air et reprendre souffle. Et cette chaleur était d'autant plus forte qu'elle venait non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Cela les affectait au point que leur peau se desséchait, leurs cheveux tombaient, et elles s'évanouissaient souvent. Et leurs afflictions étaient si grandes que lorsque c'était le jour, elles souhaitaient la nuit, et lorsque c'était la nuit, elles souhaitaient le jour. Une fois, Catherine demanda au moine, qui venait à elle avec un médecin, et disait le faire par charité, s'il ne les gardait pas dans cette chambre chaude pour les tuer, et n'amenait pas un médecin afin de les maintenir en vie plus longtemps. Le frère répondit que l'inquisiteur perdrait la tête s'il les prenait alors, et qu'il valait mieux les garder là que de les tuer. Alors elles écrivirent à l'inquisiteur et exposèrent leur innocence, elles dirent aussi que, si c'était leur sang qu'ils convoitaient, ils pouvaient le prendre de toute autre manière, aussi bien que de les étouffer dans cette chambre chaude. Mais cela l'irrita tellement qu'il envoya le frère vers elles, qui leur enleva leurs encriers, leur Bible leur ayant été prise auparavant. Elles demandèrent alors pourquoi leurs biens avaient été confisqués, on leur répondit « Tout est à nous, et vos vies aussi si nous voulons ». Elles demandèrent alors comment elles avaient mérité la perte de leur vie, on leur dit « Pour avoir apporté des livres et des papiers ». Elles répliquèrent que, s'il y avait quelque chose dans ces écrits qui ne fût pas vrai, ils pouvaient écrire contre cela. Le moine dit « Ils dédaignaient d'écrire à des fous et des ânes qui ne connaissent pas le vrai latin ». Et on leur dit encore que l'inquisiteur voulait les séparer, parce que Catherine était faible, et qu'elle irait dans une chambre plus fraîche, mais que Sarah resterait là. Alors Catherine prit Sarah par le bras et dit « Le Seigneur nous a unis, et malheur à ceux qui nous séparent. J'aimerais mieux mourir ici avec mon amie que de me séparer d'elle ». Cela frappa tellement le frère qu'il s'en alla et ne revint plus pendant 5 semaines, et durant tout ce temps, la porte de leur chambre ne fut pas ouverte. Puis les moines revinrent pour les séparer, mais Catherine était malade et couverte d'éruptions de la tête aux pieds. Ils firent alors venir un médecin, et il dit qu'elle devait avoir de l'air, sinon elle mourrait. On le rapporta à l'inquisiteur, qui ordonna qu'on laissât la porte ouverte 6 heures par jour. Mais 10 semaines plus tard, elles furent séparées, ce fut une affliction si douloureuse qu'elles déclarèrent que la mort elle-même ne leur aurait pas été aussi pénible. Mais les moines disaient qu'elles se corrompaient l'une l'autre et qu'une fois séparées elles s'inclineraient et se soumettraient. Ils se virent détrompés, car les femmes furent ensuite plus fortes qu'auparavant, le Seigneur les rendant aptes à toutes conditions. Avant qu'elles ne fussent séparées, les frères leur apportèrent un fouet fait de petites cordelettes de chanvre, leur demandant si elles le voulaient, et disant qu'ils avaient coutume de se fouetter jusqu'au sang. Mais les femmes dirent que cela ne pouvait atteindre le diable, il siégeait sur le cœur. Alors les moines dirent « Tout le peuple de Malte est pour vous, si vous devenez catholique, il n'y en aura pas un qui ne vous aime. » Elles répondirent « Le Seigneur nous a changés en ce qui ne change pas. » Les moines dirent alors « Toutes nos saintes femmes prient pour vous, et vous serez honorés de tout le monde si vous vous convertissez. » Elles répondirent « Le monde gît dans la méchanceté, et l'honneur et la gloire du monde nous les avons reniés. » À cela les moines dirent « Vous serez honorés de Dieu aussi, mais maintenant vous êtes haïs de tous. Ceci, dit l'une des femmes, est un signe évident de qui nous sommes les servantes. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. » Une fois, un premier jour de la semaine, les frères vinrent et leur ordonnèrent de s'agenouiller avec eux pour prier. Elles signifièrent qu'elles ne pouvaient prier que comme le Seigneur les y poussait. Alors les frères les commandèrent une seconde fois, s'agenouillèrent au bord de leur lit et prièrent à leur manière. Cela fait, ils dirent aux femmes, « Nous avons éprouvé vos esprits, maintenant nous savons de quel esprit vous êtes. » Mais elles leur dirent qu'ils ne pouvaient pas le savoir, à moins que leur esprit ne fût tourné vers la lumière du Christ dans leur conscience. Le frère anglais, se mettant alors en colère, leur montra son crucifix et leur dit de le regarder. Mais elles lui dirent que le Seigneur a dit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans le ciel en haut, ni sur la terre en bas, ni dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Le frère, voyant Sarah lui parler avec tant d'audace, appela les fers pour l'enchaîner. Elle inclina alors la tête et lui dit, « Non seulement mes mains et mes pieds, mais aussi mon cou, pour le témoignage de Jésus. » Le frère, semblant apaisé, dit qu'il leur ferait tout le bien qu'il pourrait, car il voyait que ce qu'elle faisait n'était pas par malice. Et les frères vinrent souvent et leur dirent, « Si vous faisiez seulement un peu, vous seriez mises en liberté, mais vous ne faites rien du tout, vous êtes contre tout. » Elles répondirent qu'elles feraient tout ce qui pourrait tendre à la gloire de Dieu. Pendant qu'elles étaient emprisonnées ici, il arriva que la maison de l'Inquisition fut nouvellement bâtie ou réparée, ce qui prit environ un an et demi. Et pendant ce temps, certains grands personnages vinrent souvent voir le bâtiment, ce qui donna à ces femmes l'occasion de leur parler et de déclarer la vérité au nom du Seigneur. Or, bien qu'elles fussent menacées par les moines pour avoir prêché avec tant d'audace la lumière du Christ, non seulement les magistrats, mais encore le Seigneur inquisiteur se montrèrent modérés envers, elles y donnèrent ordre qu'on leur fournisse des plumes, de l'encre et du papier pour écrire en Angleterre. Et ils semblaient disposés à les mettre en liberté, mais les frères s'y opposèrent puissamment, et ils travaillèrent environ trois quarts d'année à les séparer avant de pouvoir y parvenir. Et lorsqu'enfin ils y eurent réussi, ils dirent à Catharine qu'elle ne se reverrait jamais plus. Entre-temps, Catharine, étant souffrante, avait peu d'appétit et n'avait envie de rien manger sinon de ce qui lui venait de Sarah. Et ayant dit à l'un des frères qu'elle avait besoin de quelqu'un pour laver son linge et lui préparer des mets chauds, il envoya demander à Sarah si elle voulait le faire pour elle. Elle dit que oui. Ainsi, pendant quelques semaines, elles eurent des nouvelles l'une de l'autre chaque jour, et le frère dit un jour à Catharine, « Vous pouvez vous délivrer de votre misère quand vous le voulez. Vous pouvez vous faire catholique et avoir la liberté d'aller où vous voudrez. » Elle lui dit, « Ainsi, j'aurai le nom de vivre alors que je serai morte. Vous avez déjà assez de catholiques. Efforcez-vous d'en amener quelques-uns à la lumière dans leur conscience, afin qu'ils aient de la crainte et ne pêchent point. » Mais il était si pressant qu'il dit qu'il perdrait un de ses doigts si elle et Sarah devenaient catholiques. Elle lui dit alors que c'était Babylone qui était bâtie avec du sang, mais que Sion était rachetée par le jugement. On employa bien des moyens pour les détourner, et une fois on aurait voulu la persuader de placer une image à la tête de son lit comme représentation, mais elle dit avec horreur, « Quoi, pensez-vous que je veuille un veau à adorer? Marchez-vous selon la règle des Écritures? » Le frère répondit, « Nous le faisons, mais nous avons aussi des traditions. » Et elle répliqua, « Si vos traditions portent atteinte au fondement de la doctrine du Christ, des prophètes et des apôtres, ou s'en écartent, je les renie au nom du Seigneur. » Mais il affirma que non. Alors elle demanda de quelles règles ils se servaient pour brûler ceux qui ne pouvaient se joindre à eux pour raison de conscience. Il répondit, « Saint Paul fit pire, car il les livra au diable. » Astérisque, et il ajouta qu'il jugeait damnés tous ceux qui n'étaient pas de leur foi. Elle lui opposa ensuite plusieurs rites superstitieux de l'Église de Rome, et mentionna aussi l'interdiction du mariage, qui, dit-elle, est une doctrine de démons selon la parole de l'apôtre. Le frère, réduit au silence, lui dit que Saint-Pierre était le pape de Rome, qu'il y avait bâti un autel, et que le pape était son successeur, et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais elle réfuta cela avec de solides raisons. Lui se vantant ensuite de l'antiquité de leur Église, elle fit entendre que l'Église dont elle faisait partie était encore plus ancienne, car, dit-elle, notre foi est dès le commencement, et Abel était de notre Église. Le frère, déconcerté et n'étant plus capable de tenir tête à Catharine, alla vers Sarah et lui parla de la même manière. Elle aussi lui dit qu'Abel était de notre Église. Il répondit, Abel était catholique, et, se trompant complètement, il dit aussi, et Caïn et Judas l'étaient aussi. Sarah répondit, « Alors le diable était catholique, et je ne le serai pas. Je ne me convertirai pas, quand bien même vous me déchireriez en morceaux, je crois que le Seigneur me donnerait la force de l'endurer. » Astérisque, le frère renvoie à 1 Cor 5:5, « Vous devez livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Paul rétablit plus tard le même homme dans l'Église, après un temps de souffrance pour adultère avec sa belle-mère, ainsi donc, au contraire, vous devez lui pardonner et le consoler, afin qu'il ne soit pas accablé par un trop grand désespoir. 2 Cor 2:7. Pourtant ce soi-disant frère menace de brûler Catharine vive, osant accuser Paul d'un crime pire. Une autre fois, le dit frère, nommé Malachie, revint auprès de Catharine et lui dit que si elle voulait être catholique, elle n'avait qu'à le dire, sinon on la traiterait mal, elle ne verrait plus jamais le visage de Sarah, mais mourrait seule, et 1000 diables emporteraient son âme en enfer. Elle lui demanda alors s'il était le messager de Dieu pour elle, il répondit, oui. « Eh bien, quel est mon péché, dit-elle, ou en quoi ai-je provoqué le Seigneur pour qu'il m'envoie un tel message ?»« C'est, répondit le moine, parce que tu ne veux pas être catholique. » Alors elle dit, « Je te renie, toi et ton message aussi, ainsi que l'Esprit qui parle en toi, car le Seigneur n'a jamais parlé ainsi. » Lui, se mettant en colère, dit qu'il la mettrait sous tout un monceau de chênes, où elle ne verrait ni soleil ni lune. Elle, montrant combien elle était résignée, dit qu'il ne pouvait la séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, qu'il la mette où il voudrait. Et lui disant encore qu'il la livrerait au diable, elle reprit, « Je ne crains pas tous les diables de l'enfer, le Seigneur est mon gardien. Quand bien même vous auriez l'Inquisition et tous les pays d'alentour de votre côté, et que je fusse seule, je ne les crains pas, s'ils étaient des milliers de plus, le Seigneur est à ma droite, et le pire qu'ils puissent faire, c'est tuer le corps, ils ne peuvent toucher à ma vie pas plus que le diable ne put toucher à celle de Job. » Alors le moine dit qu'elle ne sortirait jamais vivante de cette chambre. Elle dit courageusement, « Le Seigneur est suffisant pour me délivrer, mais qu'il le veuille ou non, je n'abandonnerai pas la fontaine vivante pour boire à une citerne crevassée. Et vous n'avez aucune loi pour nous retenir ici, sinon une loi telle qu'Achab en eut pour la ville Naboth. » Le moine, se maudissant lui-même et invoquant ses dieux, s'enfuit, et tandis qu'il tirait la porte, il dit, « Demeure là, membre du diable. » À quoi elle répondit, « Les membres du diable font les œuvres du diable, et les malheurs et les plaies du Seigneur seront sur eux pour cela. » Il alla ensuite le dire à l'inquisiteur, qui se moqua de lui, et avant qu'il ne revînt, Catherine avait été déplacée hors de cette chambre. Lorsqu'il revint, il amena avec lui un des hommes de l'inquisiteur et 2 fort bonnes poules, disant que le seigneur inquisiteur les lui envoyait par affection. Elle répondit qu'elle recevait son affection, mais qu'elle ne se montrait pourtant guère prête à les accepter, et fit entendre qu'elle était disposée à les payer, ne voulant pas être à la charge de qui que ce soit tant qu'elle avait de quoi elle-même. Le frère, qui semble-t-il aurait voulu qu'elle déposasse leur argent à ses pieds, dit qu'elle ne devait rien compter comme leur appartenant, car au temps primitif, on vendait ses biens et on les déposait aux pieds des apôtres. Il ajouta, « Vous ne manquerez de rien, quand bien même nous dépenserions 1000 écus. Mais vous êtes orgueilleuse, parce que vous ne voulez pas accepter les poules de l'inquisiteur, qu'il vous a envoyées par charité. » Elle demandant alors quelle sorte de charité c'était, puisqu'il la gardait en prison, le frère répondit que c'était pour le bien de leurs âmes qu'il les tenait emprisonnées, ajoutant encore, « Si vous n'aviez pas voulu prêcher, vous auriez pu aller où bon vous semblait. » Elle répondit, « Nos âmes sont hors de portée de l'inquisiteur. Pourquoi votre amour s'étend-il davantage à nous qu'à votre propre famille, puisqu'ils commettent toutes sortes de péchés dont vous ne pouvez nous accuser? Pourquoi ne les mettez-vous pas à l'inquisition, et ne leur ordonnez-vous pas de se convertir ?» Alors il dit, « Vous n'avez pas la vraie foi. » Et lui montrant son crucifix, il lui demanda si elle croyait qu'il l'adora, et elle lui demanda alors que faisait-il donc de cela, à quoi il répondit que c'était une représentation. Et elle répliqua que cela ne représentait pas le Christ, car il était l'image expresse de la gloire de son Père, qui est lumière et vie. « Mais, poursuivit-elle, si vous pouvez mettre de la vie dans l'une de vos images, alors amenez-les-moi. Quelle représentation Daniel avait-il dans la fosse au lion, ou Jonas dans le ventre de la baleine? Ils crièrent vers le Seigneur, et il les délivra. » Le frère, qui ne pouvait souffrir de l'entendre parler ainsi contre les idoles, dit qu'elle parlait comme une folle, ajoutant « Je te livrerai au diable ». Elle, ne craignant pas cela, dit « Donnez les vôtres, moi je suis au Seigneur ». Alors il se leva et dit « Je te traiterai comme les apôtres traitèrent Ananie et Saphira ». Elle se levant aussi, dit « Je te renie au nom du Seigneur, le Dieu vivant, tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Il s'en alla ensuite avec les poules vers Sarah et lui dit que Catherine était malade, et que le seigneur inquisiteur avait envoyé 2 poules, et qu'elle serait contente de manger un morceau de l'une, si elle en faisait apprêter une sur le champ, et l'autre le lendemain. Sarah, tout aussi circonspecte et prudente que Catherine, et ne voulant pas recevoir ce présent avant de savoir ce qu'il pouvait être expédient de faire, lui répondit comme Catherine l'avait fait. Il emporta alors de nouveau les poules, disant, « Vous voudriez bien être brûlés, parce que vous voulez faire croire au monde que vous aimez Dieu au point de souffrir ainsi. » Catherine, entendant cela, dit « Je ne désire pas être brûlée, mais si le Seigneur devait m'y appeler, je crois qu'il me donnera la force de l'endurer pour sa vérité. Et si chaque cheveu de ma tête était un corps, je pourrais tous les offrir pour le témoignage de Jésus. » Le frère, étant revenu ensuite, demanda de nouveau à Catherine si elle n'avait pas été inspirée par le Saint-Esprit pour devenir catholique depuis qu'elle était entrée à l'Inquisition. Elle dit « Non », mais lui soutenant le contraire, dit « Vous êtes de ceux qui appellent l'Esprit du Saint-Esprit l'Esprit du diable. » « Non », répondirent-elles, car bien qu'elle fût séparée, elle pouvait s'entendre « L'Esprit du Saint-Esprit en nous résistera au diable, et l'inspiration du Saint-Esprit n'est pas opérée dans la volonté de l'homme, ni au temps de l'homme, mais dans la volonté et le temps de Dieu. » Elles eurent encore quelques discours sur cette matière, puis, demandant leur Bible qu'on leur avait prise, il dit qu'elles ne les reverraient jamais parce qu'elles étaient fausses. Ainsi étaient-elles souvent troublées et importunées par les frères, qui venaient généralement deux à la fois, quoiqu'il n'y en eût parfois qu'un. L'un d'eux levait souvent la main pour les frapper, mais ne le faisait pas, car n'étant point ému par la peur, il en était décontenancé et disait qu'elles étaient de bonnes femmes et qu'il leur ferait tout le bien possible. Et de fait, il travaillait parfois pour elles, disant que c'était pour l'amour de Dieu et qu'elles devaient l'en remercier, à quoi elles répondirent que ceux qui faisaient quelque chose pour Dieu n'attendaient pas de récompense des hommes, ce qui, un jour, le mit tellement en colère qu'il dit qu'elles étaient les pires de toutes les créatures et qu'on devait les traiter plus mal que les Turcs, les Arméniens et les Luthériens. Là-dessus, l'une d'elles dit « La vie pure a toujours été tenue pour la pire, et si nous devons souffrir, nous sommes au Seigneur, et nous pouvons nous confier en lui. Faites de nous ce que vous voudrez, nous ne craignons aucune mauvaise nouvelle. Nous sommes établis et affermis dans la vérité, et plus vous nous persécutez, plus nous nous fortifions, car elles l'éprouvèrent en effet, selon ce qu'elles avaient signifié dans leurs lettres, bien qu'elles aient été séparées l'une de l'autre pendant un an. Les frères venant un jour vers Sarah lui dirent que, si elle le voulait, elle pourrait sortir de la prison et ne rien dire ni faire. Et comme elle disait qu'elle le ferait à cette condition, ils dirent qu'il viendrait le lendemain matin. Mais Sarah s'aperçut de leur tromperie, et ainsi, quand ils vinrent, elle, pour éviter le piège, ne put se résoudre à sortir, quoique les frères se montrassent amicaux, et lui disent que l'Inquisition avait déclaré que, si elle voulait du linge, des vêtements de laine, des bas, des souliers ou de l'argent, elle l'aurait. Il arriva un jour qu'un Anglais qui vivait là, ayant appris que Sarah était dans une chambre dont la fenêtre donnait sur la rue, grimpa le long du mur et lui dit quelques mots, mais on le tira violemment vers le bas, et on le jeta en prison au péril de sa vie, car c'était un homme qu'ils avaient pris aux Turcs et qu'ils avaient fait papiste. Les frères venant vers elle pour savoir s'il leur avait apporté des lettres, elles dirent « Non ». Catherine ne l'avait pas vu non plus, et pourtant on leur dit qu'il était probable qu'on le pendrait. Sarah en informa Catherine en lui écrivant quelques lignes, car il semble qu'alors elle ne pouvait pas s'entendre, et elle lui dit qu'elle pensait que les frères anglais étaient les principaux acteurs de cette affaire. Cela affligea Catherine, et elle écrivit de nouveau à Sarah, car elles avaient un moyen secret de s'envoyer des messages. Dans cette lettre, après sa salutation, elle dit à Sarah qu'elle pouvait être assurée que les frères en étaient les principaux acteurs, mais qu'elle croyait que le Seigneur préserverait ce pauvre anglais par amour, et qu'elle avait été portée à rechercher le Seigneur pour lui avec des larmes, et qu'elle désirait qu'elle lui envoyât quelque chose une fois par jour, si le geôlier voulait le porter, qu'elle-même était ravie de l'amour de Dieu pour son âme, et que son bien-aimé était le plus grand entre 10 000, et qu'elle ne craignait le visage d'aucun homme, quoi. De plus, qu'elle avait la perspective de leur retour en sûreté en Angleterre. Et en conclusion, elle dit à Sarah de prendre garde si on la tentait avec de l'argent. Mais cette lettre, par quel moyen ils ne le surent jamais, tomba entre les mains du frère anglais, qui, la traduisant en italien, la remit au seigneur inquisiteur, puis vint avec le député de l'inquisiteur vers Catherine et lui montra les deux papiers en lui demandant si elle pouvait le lire, c'est-à-dire l'anglais. « Oui, dit-elle, je l'ai écrit. « Oh, vraiment, dit-il, et que dites-vous de moi ici ?»« Rien que la vérité, répondit-elle. » Alors il dit « Où est le papier que Sarah a envoyé, donnez-le, ou bien je fouillerai votre coffre et partout ailleurs. » Elle lui dit alors de chercher où il voudrait. Il dit qu'elle devait lui dire qu'il lui avait apporté de l'encre, sinon on l'attacherait sur le champ avec des chaînes. Et elle répondit qu'elle n'avait rien fait que de juste et de droit devant Dieu, et que ce qu'elle souffrirait pour cela serait pour l'amour de la vérité, et qu'elle ne compromettrait pas les pauvres ouvriers. Alors il dit « Pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que Sarah a écrit. » Et elle lui en dit quelque chose et dit que ce qu'elle disait était vérité. « Mais, reprit-il, vous dites qu'il est étonnant que nous ne vous tentions pas avec de l'argent. » Et cela arriva effectivement ensuite. Le député prit alors l'encre de Catherine et la jeta, puis ils s'en allèrent aussi, et le pauvre anglais fut relâché le lendemain matin. Ils vinrent ensuite vers Sarah et lui dirent que Catherine avait honnêtement tout confessé et qu'elle ferait bien de confesser aussi, et ils la menacèrent d'une corde, et qu'ils lui enlèveraient son lit et son coffre, et son argent aussi. À quoi Sara dit qu'il se pouvait qu'elle n'écrivît plus à Catherine, et elle demanda au député s'il était un ministre du Christ ou un magistrat. Si c'était un magistrat, dit-elle, il pouvait prendre son argent, mais elle ne le lui donnerait pas. Alors, se mettant en colère, il dit qu'elle était possédée, à quoi elle répondit que, si c'était le cas, c'était alors par la puissance d'une vie sans fin. Ainsi, de temps à autre, elles subirent de nombreuses attaques, et il arriva parfois que ceux qui venaient les voir étaient touchés jusqu'au cœur, ce qui offensait les frères. Enfin, leur argent était presque épuisé, l'ayant parfois employé pour des vivres, mais les frères leur dirent qu'elles auraient pu garder leur argent pour d'autres services, car ils les auraient entretenus tant qu'ils les tiendraient prisonnières. Elles répondirent qu'elles ne pouvaient garder leur argent et être à la charge d'autrui. Alors il se trouva que l'appétit leur manqua, et elles ne mangèrent que fort peu pendant 3 ou 4 semaines, jusqu'à ce qu'enfin elles se trouvèrent contraintes de jeûner plusieurs jours de suite, ce qui fit dire aux frères qu'il était impossible que des gens puissent vivre avec si peu de nourriture qu'elles. Et on leur rapporta que le Seigneur Inquisiteur avait dit qu'elles pourraient avoir tout ce qu'elles voudraient. Elles faisant entendre que ce n'était pas de leur propre volonté qu'elles jeûnaient, dirent qu'elles devaient attendre de connaître la pensée du Seigneur, ce qu'il voudrait qu'elles fissent. Elles demeurèrent faibles, surtout Sara, qui, s'imaginant sa mort prochaine, se coiffa donc comme elle voudrait être dans la tombe. Elles étaient toutes deux si débiles qu'elles ne pouvaient ni mettre leurs vêtements ni les ôter, étant aussi incapables de faire leur lit. Et bien qu'elles désirassent être ensemble dans une même chambre, les frères ne le permirent pas. En cet état, elles conclurent qu'elles allaient mourir, mais le ciel en avait disposé autrement. Catherine, à cette époque, étant exercée dans des supplications au Seigneur, afin qu'il lui plût de mettre fin à leur épreuve, de la manière qui lui semblerait bonne, crut entendre une voix dire « Vous ne mourrez pas », et elle prit cela pour une voix céleste. Et dès lors elles se sentirent ranimées par la présence vivante du Seigneur, à leur grande joie et consolation, de sorte qu'elles se sentirent libres de manger de nouveau. Alors on leur fournit de bons aliments, mais elles étaient pourtant dans la crainte de manger quoi que ce soit qui, à certains égards, pût être tenu pour impur. C'est pourquoi elles crièrent au Seigneur et dirent « Nous aimerions mieux mourir que de manger quoi que ce soit de souillé et d'impur. » Et Catherine crut qu'il lui fut dit de la part du Seigneur « Tu peux manger aussi librement que si tu l'avais gagné de tes mains. » Et Sara, qui parfois avait travaillé pour d'autres dans la maison de l'Inquisition, fut persuadée qu'il lui était dit par inspiration « Tu mangeras le fruit de tes mains et tu seras bénie. » Ainsi elles mangèrent, et pendant 8 ou 10 jours elles obtinrent tout ce qu'elles demandèrent. Mais ensuite elles furent si pressées par le manque de nourriture que cela leur fit plus de mal que leur jeûne. Pourtant, étant gardées en vie, le frère dit « Le Seigneur les maintient en vie par sa puissante force afin qu'elles deviennent catholiques. » À quoi elles répondirent qu'un jour il serait connu que le Seigneur avait un autre dessein. Mais les frères leur dirent clairement qu'il n'y avait pour elles aucune rédemption. Sur quoi elles dirent « Auprès du Seigneur, il y a miséricorde et abondante rédemption » et elles leur dirent de prendre garde, de peur que vous ne soyez trouvés combattants contre Dieu. À quoi les frères répliquèrent « Vous êtes des femmes insensées. Alors nous le sommes, répondirent-elles, les folles du Seigneur, et elles sont chères et précieuses à ses yeux. » Les frères, montrant alors leur tête tonsurée, dirent qu'ils étaient les folles du Seigneur, et montrant leurs robes, dirent qu'ils les portaient pour l'amour de Dieu afin d'être la risée du monde. L'un des frères, vers ce temps-là, fit tout ce qu'il put pour envoyer Catherine à Rome, et n'y réussissant pas, il dit qu'elles iraient toutes deux. Mais cela ne prenant pas effet, on envoya ce frère là-bas avec un écrit au pape, contenant matière d'accusation contre Catherine, mais elle, parlant avec zèle au scribe, prononça malheur contre cela et le défia au nom du Seigneur. Avant le départ du frère, il dit à Sara que Catherine était une sorcière et qu'elle savait ce qui se faisait ailleurs. Il disait cela parce qu'un jour, lui ayant raconté une multitude de mensonges, elle lui dit qu'elle avait en elle un témoin pour Dieu, fidèle et vrai, et qu'elle croyait ce témoin. Après son départ, le consul anglais vint vers elle avec $1 de la part du maître d'un navire venu de Plymouth. Elle lui dit qu'elle recevait l'affection de son compatriote, mais qu'elle ne pouvait recevoir son argent. Il lui demanda alors ce qu'elle ferait si elle ne voulait prendre aucun argent, à quoi elle répondit « Le Seigneur est ma part, et ainsi je ne puis manquer d'aucun bien. Nous étions dans votre maison près de 15 semaines, y avez-vous vu quelque cause de mort et de liens en nous ?» Et comme il disait non, elle lui fit entendre que, d'une certaine manière, il avait été complice de leur emprisonnement, et qu'il n'ignorait pas l'intention. « Vous saviez, dit-elle, qu'une chambre nous était préparée à l'Inquisition, et si nous n'avions pas été tenues en vie par la puissante force de Dieu, nous serions mortes depuis longtemps. » S'efforçant de s'excuser, il dit, « Que pouvais-je y faire ?» Alors elle lui rappela ce qui s'était passé dans sa maison, lorsqu'elles y étaient, et comment elle les avait appelées à la repentance et les avait averties. À quoi il dit, « Quoi qu'il en soit, tout ira bien pour vous. » Elle lui dit alors comment il avait demandé un signe d'elle, lorsqu'elles étaient chez lui, pour savoir si elles étaient servantes du Seigneur Dieu. Et elle lui demanda si ce qu'elle lui avait dit n'était pas vrai. « Vous êtes une personne condamnée, et vous tenez coupable devant Dieu. Néanmoins repentez-vous, si vous pouvez trouver un lieu. » Tandis qu'elle lui parlait ainsi, ses lèvres tremblaient et il frissonnait, de sorte qu'il pouvait à peine se tenir sur ses jambes. Et bien qu'il fût autrement un homme fort beau, dans la force de l'âge, il paraissait maintenant comme quelqu'un qui dépérit, et c'eût été un signe suffisant pour toute la ville, si l'on y avait dû me prendre garde. Catherine ayant refusé la pièce d'argent, il alla vers Sarah avec, mais elle aussi lui dit qu'elle ne pouvait la prendre, mais que s'il avait une lettre pour elle, elle serait libre de la recevoir. Comme il disait qu'il n'en avait point, il lui demanda de quoi elle avait besoin, et elle répondit que le Seigneur était son berger, qu'elle ne pouvait manquer d'aucun bien, mais qu'elle aspirait à sa liberté. Lui, ne voulant pas la décourager, dit « Vous l'aurez en son temps ». Mais il ne vécut pas pour le voir, car la fois suivante qu'elles entendirent parler de lui, il était mort. Pendant que le frère était parti à Rome, on leur dit qu'elle devait aussi y être envoyée, et il y eut en effet beaucoup de démarches à ce sujet, mais il semble qu'ils ne purent s'accorder en la matière. Pendant ce temps, Catherine et Sarah demeurèrent séparées, et il y avait 5 portes entre elles avec serrures et verrous, et pourtant Sarah trouva parfois l'occasion, soit par la négligence du geôlier, soit parce que cela se faisait exprès, de venir là où elle pouvait voir Catherine, et quelques soins que prissent les frères à les surveiller, elle venait pourtant à la porte de Catherine la nuit. Mais ayant été découverte une fois, on l'enferma de nouveau, toutefois peu après, les portes furent encore ouvertes de sorte qu'elles étaient assises à la vue l'une de l'autre. Parfois, des prisonniers de nombreuses nations étaient amenés à l'Inquisition, et les frères et d'autres grands personnages s'efforçaient à leur manière d'en faire des chrétiens. Alors ces femmes montraient souvent les erreurs du papisme et déclaraient la vérité, pour laquelle elles étaient prêtes à souffrir la mort s'il le fallait, mais cela était très mal reçu. Enfin, il arriva que 2 Anglais vinrent en ville et tentèrent d'obtenir leur liberté, mais en vain. Pourtant, peu après, les magistrats les firent venir et leur demandèrent si elles étaient malades, ou si elle manquait de quelque chose, disant qu'elle pouvait écrire en Angleterre, et ordonnant aux scribes de leur donner encre et papier. Peu de temps après vint Francis Stuart, capitaine d'un navire, et un frère d'Irlande, qui tous deux prirent beaucoup de peine pour obtenir leur délivrance, et leurs amis en Angleterre ne manquaient pas non plus de faire tout ce qui pouvait procurer leur liberté, mais le temps n'en était pas encore venu. Le dit capitaine et le nouveau consul anglais s'employèrent beaucoup à obtenir leur liberté, mais cela n'était pas au pouvoir des magistrats, car l'inquisiteur dit qu'il ne pouvait les mettre en liberté sans un ordre du pape. Cependant, Catherine et Sarah furent conduites dans la salle d'audience, et le consul anglais leur demanda si elles étaient disposées à retourner en Angleterre, et elles dirent « Oui, si c'est la volonté de Dieu ». Le capitaine du navire, qui était aussi présent, leur parla les larmes aux yeux, et leur dit ce qu'il avait fait pour elles, mais en vain. « C'est l'inquisiteur, dit-il, qui ne vous laisse pas partir libre. Vous avez prêché parmi ces gens. » Elles répondirent qu'elles avaient rendu témoignage à la vérité, qu'elles étaient prêtes à soutenir de leur sang. Il répliqua que, si elles pouvaient être mises en liberté, il leur donnerait volontiers le passage et pourvoirait à leurs besoins. Et elles dirent que son affection était tout aussi bien agréée du Seigneur que s'il les transportait lui-même. Il leur offrit aussi de l'argent, mais elles refusèrent d'en prendre. Elles lui firent alors le récit de leur emprisonnement et de leur souffrance, et dirent qu'elles ne changeraient pas d'avis, quand bien même on les brûlerait en cendres, ou qu'on les mettrait en petits morceaux. Le frère, s'approchant alors, dit qu'elles ne travaillaient pas, mais cela n'était pas vrai car elles avaient leur propre ouvrage, et travaillaient autant qu'elles le pouvaient. Elles lui dirent aussi que leur travail et leurs affaires étaient en Angleterre. Lui confessant que cela était vrai, dit qu'elles avaient suffisamment souffert, et trop longtemps, et qu'elles auraient leur liberté sous peu, mais qu'il manquait un ordre du pape. Entre-temps, le capitaine était affligé de ne pouvoir obtenir leur liberté, et s'en allant, il pria Dieu de les consoler, et elles supplièrent le Seigneur de le bénir et de le préserver jusqu'à la vie éternelle, et de ne jamais le laisser, lui ni les siens, sans une bénédiction de sa part, à cause de son affection, car il s'exposait extrêmement en ce lieu, en s'employant à obtenir leur liberté. Après son départ, elles furent traitées plus mal, et l'inquisiteur venant, les regarda avec indignation, car l'affaire de leur ôter la vie était de nouveau en discussion, et leurs portes furent fermées pendant de nombreuses semaines. Au bout d'un certain temps, l'inquisiteur revint encore dans la tour où elles se tenaient, et Sarah l'appela, et demanda que la porte leur fût ouverte pour descendre dans la cour laver leurs vêtements. Il ordonna alors que la porte fût ouverte une fois par semaine, et peu après elle l'était chaque jour. Et comme on avait dit qu'elle ne pouvait être mise en liberté sans la permission du pape, Sarah lui dit, « Si nous sommes les prisonnières du pape, nous en appelons au pape, envoyez-nous donc vers lui. Mais ceux qui demeuraient dans l'Inquisition, surtout les frères, étaient leurs ennemis mortels, quoique parfois ils eussent voulu les nourrir des meilleurs de leurs mets et leur donner des bouteilles entières de vin, si elles avaient voulu le recevoir, et cela les tourmentait extrêmement qu'elles refusassent de manger et de boire avec eux, ce qu'elles refusaient parce qu'elles les regardaient comme leurs cruels persécuteurs. Une fois, deux ou trois navires anglais entrèrent dans le port, et le consul anglais, le leur disant, ajouta qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour elles, mais qu'on ne les laisserait pas partir à moins qu'elles ne se fissent catholiques, et qu'ainsi elles devaient encore souffrir davantage d'emprisonnement. Avant que Sarah sût que ces navires étaient arrivés, elle les vit la nuit en songe, et entendit une voix disant qu'elles ne pouvaient pas encore partir. Quand les navires furent partis, on les fit venir, et on leur demanda si elles voulaient être catholiques. Elles répondirent qu'elles étaient de vraies chrétiennes, et qu'elles avaient reçu l'Esprit du Christ. L'un des magistrats leur montrant la croix, elles lui dirent qu'elles prenaient chaque jour la croix du Christ, qui est la puissance de Dieu, pour crucifier le péché et l'iniquité. Sachant qu'il y avait un frère qui, comme le capitaine le leur avait dit, avait pris beaucoup de peine pour elles, mais ne le voyant pas là, car les favorisant secrètement, il était alors absent, elles dirent à ceux qui étaient présents, « L'un de vos pères nous a promis notre liberté, mais cela ne produisit rien. » Elles reconnurent pourtant sa bonté, et lui dirent ensuite qu'il n'aurait jamais sujet de s'en repentir. Un frère, étant venu un jour vers elles, dit, « C'est la volonté de Dieu que vous soyez gardés ici, autrement nous ne pourrions vous garder. » Sur quoi Catherine lui dit, « Le Seigneur permet aux méchants de commettre le mal, mais il ne veut pas qu'ils le commettent. Il permit à Hérode de faire couper la tête de Jean-Baptiste, mais il ne voulut pas qu'il le fît. Il permit qu'Étienne fût lapidé, et que Judas trahît le Christ, mais il ne voulut pas qu'il le fisse, car s'il l'avait voulu, il ne les aurait pas condamnés pour cela. » Le frère demandant alors, « Sommes-nous donc des méchants ?» Et elle répondit, « Sont méchants ceux qui font le mal. Mais, dit-il, vous n'avez pas la vraie foi. » Elle répondit, « C'est par la foi que nous demeurons debout, et c'est par la puissance de Dieu que nous sommes soutenus. Pensez-vous que ce soit par notre propre force et sainteté que nous sommes gardés d'une vaine conduite, du péché et de la méchanceté ?» Lui disant alors que c'était leur orgueil, elle lui dit, « Nous pouvons nous glorifier dans le Seigneur, nous avons été enfants de colère naguère comme les autres, mais le Seigneur nous a rendues vivantes, nous qui étions mortes, par la parole vivante de sa grâce, et il nous a lavées, purifiées et sanctifiées en âme et en esprit, en partie selon nos mesures, et nous avançons vers ce qui est parfait. » Alors il dit, « Vous êtes de bonnes femmes, mais pourtant il n'y a pour vous aucune rédemption, à moins que vous ne soyez catholiques. » C'était là la vieille leçon des frères, qui une autre fois dirent, « Vous pouvez être catholiques et garder votre propre religion aussi, et pourtant on ne saura pas que vous êtes catholiques, sauf si vous étiez amenés devant un juge. » À quoi elles répondirent, « Quoi, devrions-nous professer un Christ dont nous aurions honte ? » Certains de ceux qui venaient les voir les prenaient en pitié parce qu'elles ne voulaient pas devenir catholiques, mais d'autres montraient leur haine en criant qu'on devait les brûler, et en hurlant, « Fioco, fioco, feu, feu !» Lorsqu'elles étaient séparées l'une de l'autre, Catherine était souvent fort inquiète pour Sarah, et craignait qu'elle ne fût prise au piège, car l'un des frères l'abordait bien des fois avec des paroles mielleuses. Mais elles demeurèrent toutes deux fermes, et étaient souvent ravies par la joie et la consolation intérieure qu'elles ressentaient. Catherine, dans une de ses lettres, dit que l'esprit de prière était une foi sur elle, mais qu'elle craignait de parler au Seigneur, de peur de dire un mot qui ne lui plairait pas. Et alors il lui fut répondu de la part du Seigneur, « Ne crains point, fille de Sion, demande ce que tu voudras, et je te l'accorderai, quoi que ton cœur puisse souhaiter. » Mais elle ne désirait rien du Seigneur que ce qui serait pour sa gloire, que ce fût sa liberté ou sa captivité, la vie ou la mort. Et dans cet état de résignation, elle se trouva agréée du Seigneur. Parfois elle parlait si efficacement à ceux qui venaient à elle, qu'ils ne pouvaient leur résister, et étaient amenés à confesser que Dieu était avec elle, tandis que d'autres faisaient un bruit affreux, et criaient « Jésus-Maria » et s'enfuyaient, comme des gens saisis d'effroi. La prison de Catherine étant si proche de la rue que les passants pouvaient l'entendre, elle était parfois poussée à les appeler à la repentance, et à se tourner vers la lumière dont ils étaient éclairés, laquelle les conduirait hors de toutes leurs voies et œuvres mauvaises, pour servir le vrai Dieu vivant, en esprit et en vérité. Cela touchait certains à tel point qu'ils soupiraient et gémissaient, et s'arrêtaient pour l'écouter, mais cela ne dura pas, car cela fut interdit sous de grandes peines. Pourtant, certains qui passaient pour aller à leur maison de culte étaient si méchants qu'ils jetaient des pierres à sa fenêtre, faisaient souvent un triste vacarme, et hurlaient comme des chiens. Ainsi, elles étaient assaillies à la fois du dehors et du dedans par les frères, qui les menaçaient violemment à cause de leur hardi témoignage contre l'idolâtrie. Une fois, lorsqu'on montra à Sarah la Vierge Marie et son enfant peint contre un mur, et qu'on voulut qu'elle les regardât, Elle, pour montrer son zèle contre le culte des idoles, frappa du pied et dit « Maudites soient toutes les images, et les faiseurs d'images, et ceux qui se prosternent pour les adorer. » Il arriva que des navires français et espagnols vinrent se joindre aux chevaliers de Malte pour combattre les Turcs. Sarah, entendant cela, dit « Dieu est en colère, Dieu est en colère, ne sortez pas pour vous tuer les uns les autres, le Christ n'est pas venu pour détruire la vie, mais pour la sauver. » Elle dit cela à beaucoup qui se persuadaient d'obtenir une victoire, mais il en fut autrement car leur flotte fut battue par les Turcs et ils revinrent avec de grands dommages. Un frère étant venu une fois vers Catherine, lui demanda pourquoi elle ne travaillait pas, ce qui la fit lui dire « Quel travail faites-vous, vous ?» Ils répondirent « J'écris ». Elle répliqua « J'écrirai aussi, si vous me donnez une plume, de l'encre et du papier. » Ne voulant pas qu'elle écrivît, il dit « Saint Paul travaillait à Rome, et en tricotant elle pourrait gagner environ 3 demi-pences par jour. » Elle lui dit « Si nous pouvions avoir parmi vous ce privilège que Paul eut à Rome sous César, qui était un prince païen, nous aurions travaillé et n'aurions été à la charge de personne, car il demeura 2 ans dans sa maison louée, prêchant l'Évangile et la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. » Elle lui demanda aussi s'il connaissait la Sainte Guerre de Dieu. « Et si vous la connaissez, dit-elle, vous ne pouvez ignorer que nous ne pouvons être sans exercice ni jour ni nuit. » Cela lui ferma la bouche, d'autant plus qu'il était bien connu qu'elle ne passait pas leur temps dans l'oisiveté, car elle tricotait des bas pour ceux qui leur étaient utiles, elle faisait des vêtements pour les pauvres prisonniers et raccommodait leurs habits, quoiqu'elle ne voulussent pas travailler pour les frères, qui, venant parfois vers elle, s'agenouillaient et voulaient que Catherine répétât après eux les paroles qu'ils disaient. Mais elle refusa, ce qui rendit ces hommes encore plus irrités. De tels événements, et d'autres semblables, l'affligeaient tant qu'une fois, dans l'angoisse de l'esprit, elle s'écria vers Dieu « Il vaudrait mieux pour moi mourir que vivre ainsi. » Car, étant presque continuellement contrainte de témoigner contre l'idolâtrie et la superstition, elle eût été prête à donner sa vie pour un témoignage contre cela, si on l'avait exigé d'elle. Et lorsque, une fois, les frères lui dirent que Sarah devait être emmenée à Rome, tandis qu'elle resterait à Malte, cela l'affligea tellement que, par des supplications, elle demanda au Seigneur s'il ne la jugeait pas digne d'aller aussi à Rome et d'y offrir sa vie pour le témoignage de Jésus. Parce que, si elle avait eu la liberté de choisir, elle eût mieux aimé cela que de retourner en Angleterre sans elle. Une autre fois, lorsqu'on leur dit que leur Bible était fausse, Catherine demanda aux frères qui le disaient « En quoi sont-elles fausses ?» Il répondit « Parce que les livres des Maccabées n'y étaient pas. » Elle répondit que, quand bien même il y manquerait quelque chose, le reste pourrait néanmoins être bon, mais que si l'on y ajoutait quelque chose, alors la Bible était corrompue. Cela visait certaines additions qu'elle avait vues dans les Bibles de là-bas. Puis il lui demanda si elle ne pensait pas que chacun devait fléchir au nom de Jésus, et comme elle répondit « Oui », il dit « Jésus », et lui ordonna de se mettre à genoux ou de s'incliner. Elle dit que son cœur et tout son corps étaient inclinés sous le nom de Jésus, mais qu'elle ne s'inclinerait pas à sa volonté, ni à celle de qui que ce soit. « Celui qui se détourne de l'iniquité, poursuivit-elle, s'incline devant le nom de Jésus, mais ceux qui vivent dans le péché et la méchanceté ne s'inclinent pas devant le Fils de Dieu. » Alors il dit que lui et ses compagnons se tenaient dans la même puissance et étaient conduits par le même esprit que les apôtres, ce qui lui fit demander pourquoi alors ils abusaient de cette puissance et usaient d'armes charnelles. Il répondit qu'ils ne le faisaient pas, car leur inquisition non, même leurs chaînes et leurs fers étaient spirituels. Astérisque puis, il lui demanda si elle ne pensait pas que tous ceux qui n'étaient pas de sa persuasion étaient damnés. Elle dit « Non, le Christ ne nous a pas ainsi enseigné, car ceux qui sont aujourd'hui dans un état de réprobation, le Seigneur, s'il lui plaît, peut demain les en tirer. » Alors il dit « Nous pensons que vous êtes damnés, et tous ceux qui ne sont pas de notre croyance. » À quoi elle répondit « Le jugement de l'homme ne nous fait aucun mal. » Astérisque ce frère a l'audace de prétendre que les tortures de l'Inquisition, les meurtres de l'Inquisition, les chaînes et les entraves, étaient tous spirituels et non charnels. Parfois, certains venaient à la prison les jours de leurs saints et leur demandaient quel jour c'était, et elle, n'ayant pas connaissance de ces saints, répondait « Nous ne le savons pas ». Lorsque les autres leur disaient alors que c'était le jour de tel ou tel saint, et que ce saint les punirait cette nuit-là parce qu'elle n'observait pas son jour, elle répondait qu'elle savait les saints en paix avec elle, et qu'ainsi elle ne les craignait pas. Une autre fois, un frère vint et leur dit qu'il y avait 17 jours jusqu'à Noël, et que la Vierge Marie avait conçu ce jour-là. Sur quoi Catherine fit cette remarque plaisante, qu'en effet c'était bien singulier qu'elle n'eût porté l'enfant que 17 jours. De tels événements l'affligeaient extrêmement, lorsqu'elle considérait les épaisses ténèbres où ces gens étaient, et comme elle criait au Seigneur dans la prière, disant qu'il semblait que tout leur travail et leur peine étaient vains, elle sentit cette réponse « Ne t'afflige pas si Israël n'est pas rassemblé, la semence de Malte doit croître en multitude, ce que tu as semé ne mourra pas mais vivra. » Après que Catherine et Sarah eurent été emprisonnées à Malte environ 3 ans, vint un certain Daniel Bake, qui fit tout ce qu'il put et alla aussi vers l'inquisiteur pour obtenir leur liberté, mais en vain, car il exigea que certains marchands anglais à Livourne ou à Messine se portent garants pour 4 000 $ afin qu'elle, une fois relâchée, ne retourne jamais dans ces contrées. Mais elles ne voulurent pas entrer dans ces conditions, ne sachant pas ce que le Seigneur pourrait un jour ou l'autre exiger d'elles. Daniel, voyant qu'ils ne pouvaient obtenir leur délivrance de cette manière, offrit de se faire emprisonner à leur place, et cela n'ayant pas été accepté, il alla plus loin encore et fit savoir qu'il était prêt à donner sa vie pour leur liberté, si elle ne pouvait s'acheter autrement. Grand amour en vérité, dont on trouve peu d'exemples, et elles, l'ayant appris, furent saisies d'une admiration excessive. Entre-temps, il trouva un moyen de leur faire remettre quelques lettres, et écrivit aussi lui-même, tant pour les consoler que pour les exhorter à la fermeté. Enfin, il trouva aussi moyen de leur parler. Car un jour, tandis qu'elles se tenaient aux grilles de la prison, lui, étant venu à leur vue, les salua en ces termes : « Le Saint Corps des élus de Dieu, très chèrement bien-aimé, reconnaît votre témoignage, et vous êtes une bonne odeur au Seigneur et à son peuple. » À quoi l'une d'elles répondit que c'était pour elles un chagrin de ne pouvoir être plus utile. Cela fit fondre son cœur de pitié et de compassion, considérant la merveilleuse miséricorde du Seigneur qui les avait préservées sans défaillir dans cette rude épreuve, et elles, se voyant l'une l'autre de loin à travers les grilles de fer, furent mutuellement rafraîchies en ce temps-là. Elles lui écrivirent ensuite, et lui signifièrent, dans les expressions les plus tendres, combien elles estimaient son grand amour, et lui envoyèrent aussi des lettres pour leurs amis et parents en Angleterre, et il ne manqua pas de leur écrire en retour durant son séjour, qui fut au commencement de l'année 1662. Mais il fut forcé de les laisser la prisonnière. Toutefois, le temps de leur rédemption approchait, qui fut amené à la requête de George Fox et de Gilbert Lattay, en écrivant au seigneur d'Aubigny. Quelque temps avant la venue de Daniel Bake à Malte, on leur avait dit que, si elles voulaient devenir catholiques, elles pourraient demeurer à Malte. À quoi elles répondirent qu'elles étaient de vraies catholiques asterisque l'un des magistrats dit que, si elles ne voulaient pas devenir catholiques, elles devaient encore souffrir une longue captivité par ordre du pape. Et pourtant il n'était pas vrai qu'il y eût un tel ordre. On leur dit aussi que, si elles voulaient baiser la croix, elles seraient relâchées, et qu'elles pourraient demeurer dans la maison du consul anglais, jusqu'à ce qu'une occasion se présentât de les transporter en Angleterre. Entre-temps, elles entendirent dire que le pape avait donné ordre de les laisser passer en Angleterre sans leur faire de mal. Mais quoi qu'il en fût, elles furent conservées dans un contentement paisible, et dirent résolument qu'elles ne baiseraient pas la croix, ni n'achèteraient leur liberté à ce prix. Il semble que le consul visait quelque avantage par leur délivrance, car il leur dit que l'inquisiteur avait déclaré que, si quelqu'un voulait s'engager fournir une caution pour 3 000 ou 4 000 $ à payer si jamais elle revenait là, on les mettrait en liberté. Il dit aussi cela à D. Bake et ajouta que si personne ne voulait s'engager déposer une caution, elle devait mourir en prison, et que c'était l'ordre du pape. Après le départ de Bake, on envoya message à certains marchands anglais au sujet d'un tel engagement, mais aucun ne parut disposé à y entrer, et les prisonnières étaient si loin d'y consentir qu'elles s'y opposèrent. Pourtant, beaucoup cherchèrent à obtenir leur liberté, se montrant prêts à s'engager pour ce qui était raisonnable, mais tous leurs efforts furent vains. Astérisque à l'origine, cette épithète catholique était donnée à l'Église chrétienne en général, c'est-à-dire à tous les fidèles, mais a été appropriée à l'Église romaine. Une fois, elles jeûnèrent 3 jours, et bien que ce fût une saison froide, elles s'assirent à même le sol, avec très peu de vêtements, sans bas ni souliers, n'ayant rien sur la tête que des cendres. Les inquisiteurs, voyant cela, s'en étonnèrent extrêmement, et Sarah commença à parler avec zèle contre la superstition et l'idolâtrie. Et quand le temps de leur jeûne fut achevé, Catherine composa ce qui suit, « Hymn to God, toute louange à celui qui ne m'a pas mise de côté ni rejetée de sa pensée, ni fermée sur moi sa miséricorde, comme j'ai toujours pu le constater. » Gloire infinie, honneur et louange, soient rendus à son nom, lui qui, en ces jours qui sont les nôtres, a fait connaître sa force et sa noble renommée. Oh, nul n'est semblable à l'agneau, dont la beauté resplendit, au glorifier son saint nom, sa majesté et sa puissance. Mon âme loue-toi, toi le seul Dieu, fontaine pure et limpide, dont les ruisseaux de cristal se répandent au loin et purifient au loin comme auprès. Les sources de l'éternité si pures et si douces qui jaillissent sans cesse pour aller à la rencontre de mon époux. Mon doux et cher bien-aimé, dont la voix est pour moi plus que toute la gloire de la terre ou les trésors que je puis voir. Il est la gloire de ma vie, ma joie et mes délices, dans le sein de son amour il m'a gardé jour et nuit. Il me conserve net et pur sous son pavillon, où je suis en sûreté avec lui, et sauvé de toute injustice. Mon âme loue le Seigneur, dis-je, loue-le dans la joie et la paix, mon esprit et ma pensée, nuit et jour, louez-le et ne cessez jamais. Ô magnifiez sa majesté, sa célébrité et son renom, lui dont la demeure est en Sion, là-haut, la gloire de sa couronne. Ô louange, louange à notre Dieu, chantez des louanges à notre roi, ô enseignez à tous les peuples partout à chanter ses louanges. Un chant de Sion, de gloire éclatante, qui brille si clairement, ô manifestez-le aux yeux des nations lointaines et proches, afin que Dieu reçoive la gloire qui lui est due, son honneur et sa renommée, et que tous ses saints puissent chanter de nouveau les louanges de son nom. Après que Catherine eut chanté ainsi avec joie, elle alla au puits dans la cour et but beaucoup d'eau en présence des prisonniers, comme Sarah le fit aussi, car elles étaient fort desséchées, et Sarah se lava aussi la tête à l'eau froide, alors ils crièrent dans leur langue, « Vous allez vous tuer, et allez au diable !» Mais elles ne craignirent pas cela, et elles ne prirent pas froid non plus, et ainsi elles devinrent un sujet d'étonnement pour les autres. Environ un demi-an après la disparition de Daniel Baker, il vint au cœur de Catherine que, si elle pouvait parler à l'inquisiteur, il leur accorderait la liberté. Et peu de temps après, il vint dans la salle du tribunal de l'Inquisition, ce qu'ayant appris, elles demandèrent à lui parler, ce qui leur fut accordé, et, admises en sa présence, elles lui dirent qu'elles n'avaient fait tort ni fraudé personne, mais qu'elles avaient souffert innocemment presque 4 ans, par motif de conscience. Après cela, l'inquisiteur se montra très courtoise envers elles, et promit leur liberté dans quelques jours, disant qu'il ferait venir le consul, et obtiendrait de lui qu'il s'engage cautionne pour 500 $, à payer pour elles si jamais elles revenaient. Et au cas où le consul refuserait, il enverrait à Rome au pape, afin de les mettre en liberté sans aucune obligation. Peu de jours après, l'inquisiteur vint avec son lieutenant, le chancelier et d'autres, et après quelques propos, il leur demanda si elles retourneraient auprès de leur mari et de leurs enfants, si telle était la volonté de Dieu. Elles répondirent que telle était, dans la volonté de Dieu, leur intention. Sur quoi elles furent relâchées, et l'inquisiteur prit congé d'elles avec beaucoup de courtoisie, leur souhaitant un heureux retour dans leur pays. De même firent les magistrats et les officiers subalternes, ne demandant pas un sou pour frais ou assistance. Pourtant, dans leur liberté, elles donnèrent quelque chose aux geôliers et à quelques pauvres. Extrait du journal de George Fox, deux de nos amis étaient emprisonnés par l'Inquisition à Malte, toutes deux femmes, Catherine Evans et Sarah Cheevers. On me dit qu'un certain Lord Daubeny pouvait obtenir leur liberté, j'allai donc le voir, et l'ayant informé de leur emprisonnement, je lui demandai d'écrire aux magistrats de là-bas pour leur libération. Il me promit volontiers qu'il le ferait et dit « Si vous revenez d'ici un mois, je vous dirai qu'elles ont été relâchées. » J'y retournai vers ce temps-là, et il dit « Je pense que mes lettres se sont égarées car je n'ai reçu aucune réponse. » Mais il promit d'écrire de nouveau, et le fit, et elles furent mises en liberté. Ainsi mises en liberté, elles s'agenouillèrent et prièrent Dieu de ne jamais leur imputer ce qu'on leur avait fait, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Elles entrèrent alors en ville, racontant ce qui s'y était passé, et on leur dit que même les navires du port avaient subi des dommages. Alors elles dirent, « Un malheur est passé, et voici qu'un autre malheur vient bientôt, si vous ne vous repentez pas. » Quelques jours après, Sarah jeûna, assise à terre de la cendre sur la tête, le cou et les épaules nues, et elle parla au consul pour demander au grand maître de proclamer un jeûne, et de faire rassembler le peuple pour attendre le Seigneur, l'esprit tourné vers lui, afin qu'il détourne de ses jugements, car l'heure de ses jugements était venue, où la prostituée paraîtrait dépouillée nue et recevrait une coupe de tremblement de la main du Seigneur. Le consul transmit ce message au magistrat, et les frères dirent que la femme avait une bonne intention. Quelque temps après, l'inquisiteur vint et parlant avec elle, dit « Votre intention est bonne, mais le diable vous a trompé. » Elles lui demandèrent alors si le diable pouvait donner pouvoir sur le péché. Il répondit que le diable pouvait se transformer en un ange de lumière. Elles y consentirent, mais dirent qu'il ne pouvait toutefois se cacher aux enfants de la lumière, tandis que ceux qui sont dans les ténèbres ne peuvent le discerner. Il ne put supporter d'entendre cela, et s'en alla, et le consul, qui était présent, s'employa contre elles pour les remettre en servitude, mais en vain. Beaucoup moururent alors dans la ville d'une fièvre violente, si quelque autre désastre suivit leur prédiction, je ne puis le dire. Finalement arriva une frégate du roi d'Angleterre, appelée le Saphir, commandée par le capitaine Samuel Titswell, qui les prit à bord, avec quelques chevaliers de Malte, parmi lesquels se trouvait le frère de l'inquisiteur, lequel parlait souvent au capitaine afin qu'elle ne manque de rien à bord, et il leur dit que, si elle revenait à Malte, elle ne serait pas ainsi persécutée. Et au capitaine il dit, « Si elles vont au ciel par une voie et nous par une autre, nous nous retrouverons tous à la fin. » Mais elles lui dirent que Jésus-Christ, la lumière du monde, était l'unique chemin vers le Père. Quittant Malte, au bout de quelque temps elles arrivèrent à Livourne, où les marchands leur témoignèrent une grande bonté, leur envoyant du vin et d'autres choses pour se restaurer, leur offrant aussi de l'argent, mais elles ne voulurent pas l'accepter. De là, elles allèrent à Tanger, que le roi d'Angleterre avait obtenu en mariage avec la fille du roi du Portugal. Ce lieu était alors assiégé par les Maures, pourtant Catherine et Sarah entrèrent dans la ville, et beaucoup affluèrent dans la maison où elles logeaient, car elles exhortaient hardiment le peuple à se détourner de la méchanceté. Elles allèrent aussi trouver le gouverneur, qui fut courtois envers elles, reçut leurs avertissements avec bienveillance et promit de suivre leurs conseils. Il aurait voulu leur donner de l'argent, mais elles n'en prirent point, bien qu'elles acceptassent son affection, car il ordonna qu'aucun soldat de la garnison ne les maltraite ni en parole ni en acte, sous peine d'un sévère châtiment. Pourtant les Portugais, et les Irlandais catholiques, étaient assez disposés à leur faire du tort. Comme elles étaient portées à sortir vers les Maures, elles demandèrent au gouverneur de les laisser partir, mais il leur dit qu'elles ne devaient attendre de ce peuple sauvage rien d'autre qu'une mort cruelle, ou des chaînes à jamais, et bien qu'elles lui fissent savoir qu'elles croyaient que le Seigneur les préserverait, puisqu'elles étaient persuadées qu'il leur demandait d'aller vers les Maures, le gouverneur, de manière amicale, les retint d'y aller. Ainsi empêchées, elles crurent que le Seigneur acceptait leur bonne volonté. Lorsqu'elles remontèrent à bord, quoique sur un autre navire, plusieurs embarquèrent avec elles, croyant qu'à cause d'elles ils feraient un voyage sûr. Le capitaine et les autres qui étaient dans le navire se comportèrent très civilement envers elles, et bien qu'elles rencontrassent des tempêtes, elles arrivèrent finalement saines et sauves en Angleterre. Catherine raconta ensuite que, lorsque dans l'Inquisition elle s'attendait pendant de nombreux jours à être brûlée, elle vit en songe durant la nuit une grande pièce et un grand feu de bois dans la cheminée, et elle aperçut quelqu'un assis dans un fauteuil près du feu, sous la forme d'un serviteur, qu'elle prit pour le Fils éternel de Dieu. De même, elle vit un très aimable petit garçon, bien fait, assis dans une chaise creuse au-dessus du feu, ne paraissant pas avoir plus de 9 mois environ, n'ayant pour vêtement qu'un peu de fin lin autour des parties supérieures, et les flammes l'enveloppaient, pourtant l'enfant jouait et était joyeux. Elle aurait alors voulu le prendre, de peur qu'il ne fût brûlé, mais celui qui était assis dans le fauteuil lui dit de le laisser. Puis, se retournant, elle vit un ange, et celui qui était assis dans le fauteuil lui dit de prendre l'enfant, ce qu'elle fit, et elle constata qu'il n'avait aucun mal. Puis, s'éveillant, elle raconta son songe à Sarah et la pria de ne pas craindre, puisque l'armée céleste les accompagnait ainsi. J'ai recueilli ce récit des événements concernant ces femmes à Malte à partir de plusieurs papiers et lettres qui, peu après leur retour au pays, furent publiés et imprimés. Et comme aucun ordre convenable n'y a été observé, et que beaucoup de choses sont mentionnées, que pour éviter d'être prolixe, j'ai omises comme peu matérielles, il se peut que j'ai manqué en quelques cas, quant à l'ordre ou la suite des temps, mais je pense pourtant que les faits principaux ne sont pas mutilés. Maintenant, pour donner au lecteur une idée de la disposition d'esprit de ces femmes et de leurs souffrances, j'insérerai quelques-unes de leurs lettres parmi celles qu'elles écrivirent à leurs amis en Angleterre, en voici une. Cher ami bien-aimé, père ancien et pilier de la maison spirituelle de Dieu, et frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, dans la mesure de l'amour et de la vie de notre Dieu, nous vous saluons tous et nous vous embrassons dans ce qui est éternel, et nous nous réjouissons grandement, glorifions le nom de notre Père céleste, de ce qu'il nous a jugé digne d'être avec vous, participant de la mort et des souffrances de son Fils béni. Quoique nous soyons les moindres du troupeau de Dieu, nous sommes pourtant de la vraie bergerie, dont. Pourtant, dans toutes ces épreuves, le Seigneur fut très gracieux envers nous, et ne s'absenta point de nous, il ne permit pas non plus que sa fidélité nous fasse défaut, mais il nous soutint et nous garda de défaillir au milieu de notre extrémité. Nous n'avions personne d'autre à qui nous plaindre, sinon le Seigneur seul, et nous ne pouvions attendre une goutte de miséricorde, de faveur ou de rafraîchissement, que ce qu'il distillait de sa présence vivant et opérait par sa propre force, car nous étions, l'une dans une chambre et l'autre dans une autre, près d'un an, comme des hiboux dans les déserts, et comme des gens abandonnés dans des lieux solitaires. Alors nous jouissions de la présence du Seigneur, et contemplions l'éclat de sa gloire, et nous vous voyons, chers amis, dans la lumière de Jésus, et contemplions votre ordre et la fermeté de votre foi et de votre amour envers tous les saints, et nous étions rafraîchis par tous les cœurs fidèles, et sentions les effusions d'amour et de vie qui jaillissaient des cœurs entièrement unis à la fontaine, et nous fûmes rendus sensibles aux bienfaits de vos prières. Oh, les douleurs, les lamentations, les larmes, mais ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec joie, une vraie tristesse engendre une vraie joie, et une vraie croix une vraie couronne, car lorsque nos douleurs abondaient, l'amour de Dieu abondait bien davantage. Plus les douleurs sont profondes, plus grandes sont les joies, plus grande est la croix, plus pesante est la couronne. Chers amis et frères, ne vous étonnez pas qu'Israël ne soit pas rassemblé, notre jugement demeure avec le Seigneur, et ainsi nos labeurs, car ce ne fut pas faute de travail, ni de peine, ni d'amour pour leurs âmes. Car nous aurions été contentes de nous nourrir de l'herbe du sol, pourvu que nous eussions eu notre liberté parmi eux. Car n'eût été la grande opposition, ils nous auraient suivis comme des poussins derrière une poule, grands et petits, mais oh! Les mers enflées, les vagues furieuses et écumantes, les vents et les torrents de tempête, et les eaux profondes, et les hautes montagnes et les collines, les rochers durs, les chemins rudes et les sentiers tortueux, les grands cèdres, les forts chênes, les arbres sans fruits et les corrompus, qui encombrent le sol et empêchent que la semence juste soit semée, et que les nobles plans soient plantés.
Oh.
Ils ferment le royaume au cœur simple, et cachent la clé de la connaissance aux innocents, et ils n'entrent pas eux-mêmes dans le royaume, ni ne permettent à ceux qui voudraient entrer, mais excitent les magistrats à forger des armes charnelles, pensant empêcher le Seigneur de prendre son héritage et de dépouiller son fils, qui est héritier de toutes choses, afin qu'il n'ait point de demeure parmi eux ni d'habitation près d'eux, parce que sa lumière découvrira leurs ternèbres, et que son éclat brûlera toutes leurs abominations, et ternira leur beauté et souillera leur gloire. Ô le ventre de l'enfer, les mâchoires de la mort et tout le mystère d'iniquité est à son comble, et toute abomination dévastatrice se tient là où elle ne devrait pas, et elle est soutenue par une loi qui, sous peine de mort, interdit à quiconque de parler contre elle ou contre quoi que ce soit qui lui soit contraire. Mais louange à notre Dieu, il nous a conduites dehors pour témoigner contre elle chaque jour. Oh! Les guides aveugles, les esprits séducteurs, qui font errer le peuple et le contraignent à adorer la bête et son image, et à porter sa marque sur leur front et sur leurs mains, et à se prosterner devant des images et des murs peints, et à adorer les œuvres de leurs propres mains, et à se courber devant ce que leurs propres doigts ont façonné, et ils ne leur permettent pas de regarder vers Sion sous peine de mort, ni de marcher vers Jérusalem sous peine de fagots et de feu, mais ils doivent demeurer dans Babylone et croire que tout ce qu'ils disent ou font est vérité. Mais oh les voix, les cultes, les manières, les formes, les coutumes, les traditions, les observances et les imaginations, qu'ils ont fait entrer par leur sombre divination, pour maintenir le pauvre peuple dans l'aveuglement et l'ignorance, de sorte qu'il périt faute de connaissance, et se corrompt, parce que la voix de la vérité n'est pas connue parmi eux. Ils sont tous dans les multiples voix, hors de l'unique voix vraie et vivante, et leurs voix sont si nombreuses et si monstrueuses qu'il est impossible d'en rendre compte. Mais le Seigneur notre Dieu a allumé un feu au milieu d'eux, qui consumera toutes les formes, manières, coutumes et traditions des hommes, et brûlera les ronces, les épines et l'ivraie, la paille, les arbres sans fruits et les corrompus. Et il frappera tous les fruits, œuvres et travaux des hommes méchants et impies du mildiou de sa colère indignée, et il dispersera tous ses ennemis par les tourbillons. Ils ne connaissent pas les Écritures, leurs Bibles affligeraient tout cœur honnête à les voir, tant la corruption y est grande. Cette lettre était signée par toutes deux, quoique Catharine en fût peut-être l'autrice, elle écrivit aussi une lettre d'exhortation à l'inquisiteur papiste de Malte et une autre au frère Malachi. Parmi les lettres qu'elle écrivit à son mari et à ses enfants, je tiens la suivante pour vraiment digne d'être transmise à la postérité. Pour les mains de John Evan, mon très cher et précieux mari, avec mes enfants au cœur tendre, qui me sont plus chers et plus précieux que la prunelle de mes yeux. Très cher et fidèle mari, ami et frère, engendré de mon Père éternel, de la semence immortelle de l'Alliance de lumière, de vie et de béatitude, j'ai avec vous unité et communion jour et nuit, pour mon grand rafraîchissement et mon réconfort continuel. Louange, louange soit rendue à notre Dieu à jamais, qui nous a unis dans ce que ni la mer ni la terre ne peuvent séparer ni diviser. Mon cher cœur, mon âme vous salue tendrement, ainsi que mes chers et précieux enfants, qui sont chers et précieux dans la lumière du Seigneur, pour votre joie sans fin et mon réconfort éternel. Gloire soit rendue éternellement à notre Seigneur Dieu, qui vous a appelé d'un saint appel, et a fait briller sa beauté sur vous en ce jour de sa puissance, où il rassemble ses joyaux et lie ses fidèles par le lien de l'amour et du salut éternel, parmi lesquels il vous a compté par sa libre grâce. Et je vous supplie, cher cœur, dans la crainte. Veillez diligemment sur toute pensée, toute parole et toute action, et que vos esprits demeurent continuellement dans la lumière, où vous découvrirez les pièges et les appâts de Satan, et serez préservés de ses trappes, de ses filets et de ses fosses, afin de ne pas être captivés par lui selon son bon vouloir. Mon cher mari et mes enfants, combien de fois ai-je répandu mon âme devant notre Père éternel pour vous, avec des rivières de larmes nuit et jour, afin que vous soyez gardés purs et simples devant notre Dieu, faisant valoir vos talents comme des vierges sages, ayant de l'huile dans vos vases, et vos lampes allumées, et vêtus des longues robes blanches de justice, prêts à entrer dans la chambre nuptiale à souper avec l'agneau, et à vous nourrir au festin des mets exquis, où vos âmes peuvent être nourries, rafraîchies, consolées et rassasiées. Mes chers cœurs, vous n'avez pas besoin d'enseignement. Vous êtes dans un pays de bénédiction, qui ruisselle de lait et de miel, parmi des intendants fidèles, dont la bouche est grande ouverte dans la justice, pour déclarer les mystères éternels du royaume éternel, des joies sans fin et de la gloire éternelle, où tous ceux qui sont disposés et obéissants entreront et seront bénis pour toujours. Mes chers cœurs, les promesses du Seigneur sont vastes, et elles sont toutes oui et amen pour ceux qui craignent son nom. Il consolera ceux qui pleurent dans Sion, et fera se réjouir les cœurs accablés à Jérusalem, à cause de la bonne nouvelle. Ceux qui portent la croix avec patience porteront la couronne avec joie, car c'est par la longanimité et les patientes attentes que la couronne de vie et d'immortalité s'obtient. Le Seigneur a exercé ma patience et m'a éprouvé jusqu'à l'extrême, pour sa louange et mon réconfort éternel, lui qui ne nous a manqué en rien en son temps. Nous sommes témoins qu'il peut dresser une table dans le désert, tant spirituellement que temporellement. Oh. l'amour sans fin de notre Dieu, qui est une fontaine éternelle de tout rafraîchissement vivant, dont les ruisseaux de cristal ne cessent jamais de couler vers toute âme assoiffée, qui soupire après les sources de la vie et du salut. Dans notre affliction la plus profonde, lorsque je m'attendais à ce que chaque souffle fût le dernier, je ne pouvais souhaiter ne pas avoir traversé la mer, parce que je savais que c'était la volonté de mon Père éternel de m'éprouver avec ma chère et fidèle amie. Dans toutes les afflictions et misères, le Seigneur se souvint de la miséricorde, et ne nous quitta ni ne nous abandonna, ni ne permit que sa fidélité nous fasse défaut, mais il fit distiller sur nous les 12 gouttes de sa miséricorde, et fit briller dans nos cœurs l'éclat de sa face glorieuse, et ne nous manqua jamais en révélation ni en vision. Oh, comment puis-je exprimer la plénitude de l'amour de Dieu pour nos âmes? Nulle langue ne peut l'exprimer, nul cœur ne peut le concevoir, nul esprit ne peut le comprendre. Oh, les ravissements, les extases, la face glorieuse et resplendissante de notre Seigneur Dieu, qui est notre plénitude dans le vide, notre force dans la faiblesse, notre santé dans la maladie, notre vie dans la mort, notre joie dans la tristesse, notre paix dans le tumulte, notre louange dans l'abattement, notre puissance dans tous nos besoins et nécessités. Lui seul est pour nous un Dieu pleinement suffisant, et pour tous ceux qui peuvent se confier en lui. Il nous a vidés de nous-mêmes et nous a entièrement édifiés sur un fondement sûr, le rocher des siècles, Jésus-Christ, la lumière du monde, où ni les mers enflées, ni les vagues furieuses et écumantes, ni les vents de tempête, quoique soufflant avec violence, ne peuvent nous ébranler. Gloire, honneur et louange à notre Dieu à jamais, qui, de ses trésors éternels, nous remplit jour après jour de ses richesses éternelles. Il a nourri nos âmes des plus choisies de ses miséricordes et nourrit nos corps de ses bonnes créatures, et pourvoit à toutes nos nécessités en pleine mesure. Louange, louange à lui seul, qui est notre portion éternelle, notre confiance et notre réjouissance, que nous servons d'une manière agréable, avec révérence et une crainte pieuse, car notre Dieu est un feu consumant. Ô mon cher mari et mes précieux enfants, vous pouvez sentir les effusions d'amour et de vie, qui jaillissent comme un fleuve vers chacune de vos âmes, depuis un cœur entièrement uni à la fontaine. Mes prières pour vous sont jour et nuit sans cesse, suppliant le Seigneur Dieu de puissance de répandre sur vous ses tendres miséricordes, de vous garder dans sa pure crainte, d'augmenter votre foi, de vous affermir en toute justice, et de vous fortifier dans la foi au nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que vous soyez établis comme le mont Sion, qui ne peut jamais être ébranlé. Gardez vos âmes sans tache du monde, et aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur, avec ferveur, servez-vous les uns les autres dans l'amour, édifiez-vous les uns les autres dans l'éternel, et portez les fardeaux les uns des autres à cause de la semence, et ainsi accomplissez la loi de Dieu. Telle est la parole du Seigneur pour vous, mes bien-aimés. Chers cœurs, je vous remets entre les mains du Tout-Puissant, qui habite dans les hauteurs, et à la parole de sa grâce en vous, qui peut vous édifier pour la vie éternelle et le salut éternel. De moi, qui suis votre chère et précieuse femme et épouse, dans le mariage de l'agneau, dans le lit sans souillure, Catharine et Van, mon très cher compagnon de joug dans l'œuvre de notre Dieu vous salue tendrement. Saluez de notre part, avec affection, nos précieux amis en tout lieu. Je crois que nous reverrons vos visages avec joie. Ceci fut écrit dans l'Inquisition à Malte, au 11e mois, en l'an 1661. La lettre suivante fut écrite par Sarah à son mari, Henry Cheevers, et à ses enfants. Mon cher mari, mon amour, ma vie est donnée pour servir le Dieu vivant, et pour obéir à son pur appel, selon la mesure de la manifestation de son amour, de sa lumière, de sa vie et de l'Esprit de Jésus-Christ, son Fils unique, qu'il a manifesté en moyen des milliers par l'éclat de son apparition afin de mettre fin au péché à Satan, et de mettre en lumière l'immortalité par la prédication de l'Évangile éternel par l'Esprit de prophétie, qui est répandu sur les fils et les filles du Dieu vivant, selon son dé. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, pour l'amour de son propre nom, a passé sur mes offenses, et m'a jugé digne de rendre témoignage à son saint nom devant les puissants de la terre. Oh, l'amour du Seigneur pour mon âme, ma langue ne peut l'exprimer, et il n'est pas entré dans le cœur de l'homme de concevoir les choses que Dieu a préparées pour ceux qui le craignent. C'est pourquoi mon âme soupire vers mon Dieu pour vous et mes enfants, nuit et jour, afin que vos esprits soient unis à la lumière du Seigneur Jésus, pour vous conduire hors du royaume de Satan dans le royaume de Dieu, où nous pourrons jouir les uns des autres dans la vie éternelle, où ni la mer ni la terre ne peuvent séparer. Dans cette lumière et cette vie, je vous salue, mon cher mari, avec mes enfants, vous souhaitant d'embrasser l'amour de Dieu, en ce qu'il rend sa vérité si clairement manifeste parmi vous, ce dont je suis témoin même de là. Quel profit y a-t-il à gagner le monde entier et à perdre vos propres âmes? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront ajoutées. La piété est un grand gain, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir, ce qui s'accomplit en moi, qui ai goûté l'amour sans fin du Seigneur et ses miséricordes envers mon âme. Et par un mouvement de ce même amour et de cette même vie, je soupire vers vous, mon cher mari, avec mes enfants, mon cher amour vous salue tous, mes prières à mon Dieu sont pour vous tous, afin que vos esprits soient unis à la lumière dont vous êtes éclairés, afin que je puisse jouir de vous dans ce qui est éternel et avoir communion. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit, un seul cœur, une seule pensée, une seule âme, pour servir le Seigneur d'un même consentement. Je ne puis par la plume ni par le papier exposer l'immense amour de Dieu, en accomplissant envers moi ses gracieuses promesses dans le désert, ayant été mis en prison pour la vérité de Dieu, pour y demeurer tous les jours de ma vie, étant fouillé, éprouvé, examiné, interrogé, sous peine de mort parmi les ennemis de Dieu et de sa vérité, ma vie étant en péril, jusqu'à ce que le Seigneur les eût soumis et amenés sous son puissant pouvoir et les eût fait nous nourrir, et ils auraient voulu nous donner de l'argent ou des vêtements, mais le Seigneur. Le jour du Seigneur paraît, où il dévoilera toute œuvre de ténèbres, fût-elle faite dans le plus grand secret, la lumière de Jésus-Christ la rendra manifeste dans toute conscience, le Seigneur déchirera tous les voiles qui ne sont pas de son propre esprit. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Écrit dans la prison de l'Inquisition, par Sarah Chive, elle et Catherine écrivirent plusieurs autres lettres à leur mari, amis et parents. Mais comme une grande partie de mon récit en a été tirée, je les passe. Toutefois, par celles insérées ici, on peut voir qu'elles n'étaient pas des femmes d'un esprit terne, mais ingénieuses et enjouées. Dans une lettre de Sarah à ses amis en Irlande, je trouve ces mots. « Ma vie est donnée au service du Seigneur, lien, chaîne, verrou, fer, porte double, la mort elle-même, c'est trop peu pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, ainsi la semence est rassemblée, ce n'est qu'un sacrifice raisonnable. Liens et afflictions accompagnent l'évangile de Christ. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ doivent souffrir la persécution. » Et dans une lettre à Daniel Bake, Catherine dit « Le temps est trop court pour que je dévoile la 20e partie des terribles épreuves. » Mais chaque fois que nous étions soumises à une épreuve, le Seigneur ôtait de nous toute crainte, multipliait notre force, et nous donnait puissance et hardiesse pour plaider pour la vérité du Seigneur Jésus, et la sagesse des paroles pour fermer la bouche aux opposants, mais alors il disait que nous n'avions pas la vraie foi, bien que nous eussions toutes les vertus. Bien-aimés, priez pour nous, afin que nous ne tombions ni ne faillissions, de sorte que nos ennemis n'aient aucun avantage pour se réjouir et dire que nous servions un Dieu qui ne pouvait nous servir, et invoquions un Dieu qui ne pouvait nous délivrer, comme si nous étions comme eux invoquant des bois, des pierres, des images et des murs peints, et des choses mortes qui ne peuvent ni entendre, ni voir, ni parler. Nous vous supplions de dire à tous nos chers amis, pères et anciens, les piliers de l'édifice spirituel, ainsi qu'à tous nos autres frères chrétiens, que nous désirons leurs prières, car nous en avons besoin. Ils conclurent cette lettre par le poème suivant, « Que notre roi est fort et puissant pour tous ceux qui croient en lui. Il les préserve du piège et des dents de ceux qui voudraient les déchirer. Nous qui souffrons pour la semence, nos cœurs sont blessés et saignent de voir l'oppression, la cruauté des hommes qui nient ta vérité. Dans des prisons fortes et des cachots profonds, vers Dieu seul nous crions et pleurons, nul ne peut connaître ni lire nos douleurs, sinon ceux qui marchent sur notre chemin. Mais lui dont la beauté resplendit, qui change les ténèbres en lumière, fait plier les cèdres et courber les chaînes devant celui qui est envoyé au même but. Il est une fontaine pure et claire, ses ruisseaux de cristal coulant au loin et au près, pour laver tous ceux qui viennent à lui, afin d'être guéris de leurs péchés. Tous ceux qui demeurent patiemment, et ne dévinent ni ne s'écartent, le Seigneur les délivrera de toute servitude, captivité et esclavage. Ils composèrent plusieurs autres poèmes, qui tombèrent entre les mains de leurs ennemis, et des copies en furent données à l'inquisiteur. La fin, le but de ce site web, est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.